Restons debout un instant maintenant, alors que nous courbons nos cœurs devant Dieu. Notre Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir le privilège d'être ici aujourd'hui, rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Nous te prions de pardonner nos péchés, et comme nous sommes ici pour porter notre attention sur les choses éternelles et sur la vie qui est au-delà de ce que nous pouvons atteindre en tant que mortels. Maintenant, nous te prions de nous donner de tes instructions. Comment nous devons nous conduire, ce que nous devons faire à l'avenir, et même en présence, maintenant, pour parvenir à cet endroit qui nous a été promis. Il y en a beaucoup dans le pays qui sont malades et dans le besoin, et ils n'ont pas terminé leur voyage. Et notre grand ennemi, pas seulement notre ennemi, mais ton ennemi à toi, est venu pour les attaquer, et pour mettre fin à leur vie, et pour les envoyer dans la tombe prématurément. Et aujourd'hui, nous te demandons pour eux, dans ta miséricorde et dans ta grâce, Seigneur, de prolonger leurs jours jusqu'au temps fixé. Ici, sur l'estrade, ou la chaire, il y a des mouchoirs et des paquets, et dans les couloirs et tout autour, il y a ceux qui sont sur des brancards, des civières, malades et affligés, qui sont dans l'auditoire, et qui n'ont presque pas la force de se tenir debout. Ô Dieu éternel, celui qui est béni, veuille entendre notre prière ce matin par le sang du Seigneur Jésus, sans regarder à notre iniquité, mais en sachant qu'il a pris notre place, et que c'est lui qui nous représente pour cette prière. Que chacun sans exception soit guéri pour ta gloire, Seigneur. Bénis ces mouchoirs, quand on les posera sur les malades, qu'ils soient guéris. Et maintenant, Père, en attendant le glorieux service de guérison que nous croyons qui va suivre, veuille nous rompre le chemin de la vie, Seigneur, afin que par ta parole, nous sachions ce que nous devons faire. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Comme toujours, je considère ceci comme un de mes plus grands privilèges, d'être dans la maison de Dieu et de parler à son peuple. Et je sais bien qu'on est très serré, et j'ai une très longue leçon. Alors j'espère que vous serez à l'aise autant que vous le pouvez, jusqu'à ce que nous ayons terminé le message. Maintenant, il fait chaud, mais nous sommes reconnaissants d'avoir un climatiseur. Seulement, avec un aussi grand groupe que celui-ci, il n'y a pas de climatiseur qui puisse faire l'affaire. Voyez, parce que votre corps même est un générateur d'environ 98 degrés, qui dégage sans arrêt de la chaleur et d'être serré. Mais j'ai confiance que Dieu vous fera vous sentir aussi bien qu'il le peut. Et quand on est dans construit des rassemblements comme celui-ci, Je ne vous ferais pas venir ici jamais de la vie si je ne pensais pas que ça vous aiderait, si je ne pensais pas que ça vous fait du bien et que vous alliez en profiter d'être venu. Et puis, en sachant aussi qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire ceci, que nous en arrivons aux toutes dernières heures. Et je veux faire tout ce que je peux pour que chaque moment compte pour son royaume. Et maintenant, j'ai confiance que le Seigneur Dieu va nous bénir alors que nous sommes rassemblés. Et je voudrais vous rapporter qu'hier, comme je suis allé à plusieurs endroits, je suis allé voir certains de ceux qui sont malades et affligés dans les motels. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains des gérants cette semaine, de certains restaurants. Par exemple, j'étais au Ranch House près d'ici cette semaine, et le gérant me serrait la main comme on sortait. Et il a dit, il m'a appelé Frère Branham. Je me suis demandé comment il me connaissait. Et il a dit, j'ai dit, êtes-vous le gérant? Il a dit, je suis le propriétaire. Et puis il a dit, oui, les gens de chez vous viennent manger ici, de là-bas. Il a dit, j'ai dit, eh bien, je pense qu'il vous submerge. Il a dit, monsieur, c'est un des meilleurs groupes de gens que j'ai jamais vus. Il a dit, ils sont vraiment gentils. Je suis allé à un motel hier, voir une jeune dame à qui je voulais parler. Son père et sa mère étaient présents. Et j'ai dû aller voir le gérant pour savoir où dans quelle chambre ils étaient. Il a dit, alors, vous êtes Frère Branham? ça c'est là-bas aux Oaks. Et j'ai dit, oui monsieur. Il a dit, je veux vous serrer la main. Il a dit, il m'a présenté à sa femme, un couple très gentil. Ils ont dit, tous les gens qui sont au motel ici, ils assistent à vos réunions. Nous l'avons réservé pour eux. Et il a dit, tous les autres clients, nous les avons refusés. Et j'ai dit, eh bien, je vous en remercie. Il a dit, frère Branham, un des groupes de gens les plus gentils que j'ai jamais vus, ce sont les gens qui viennent ici, qui assistent à vos réunions. Hier soir, je suis allé chez un de mes amis, M. Becker, là, et j'ai toujours aimé ses sandwichs. Il est tellement... Je l'ai connu quand j'étais garçon. Je le connais depuis toujours. Il y avait un couple assis là qui venait de l'ancien établissement là-bas, de l'hôtel Riverside là-bas. Alors il... M. Becker m'a dit, « Billy ?» J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a, Homer ?» On se connaît très bien. Il a dit, « Je fais à manger pour tous les gens de chez toi, là-bas. Il y en a dans les 200 à peu près chaque dimanche qui mangent au Blue Bar. » Et partout où je vais, j'entends dire combien vous êtes gentils. Ce gars-là, il disait, là-bas, au Riverview, là-bas, il disait, c'est complet. Il n'y a que les gens qui viennent à la réunion. Il a dit, il y en aura des centaines qui n'auront pas de place. Donc, en étant comme ça, pour moi, vous êtes le sel de la terre. Je suis tellement reconnaissant de savoir que j'ai le privilège de prêcher à des gens, que même des pécheurs et des gens, je ne dis pas que ces personnes sont des pécheurs, mais je veux dire des personnes qui, dans les affaires et tout, qui peuvent dire que vous êtes gentils. Ils sont contents de vous avoir dans leur établissement, chez eux. Vous savez, c'est ça, être salé. Ça me fait plaisir. Votre comportement, votre façon de vous occuper des choses. J'ai toujours dit, si quelqu'un arrive et qu'il n'a pas d'argent pour payer sa facture, vous n'avez qu'à m'appeler. Voyez? J'ai dit, on fera quelque chose pour ça. Et j'ai dit, donnez-leur toujours à manger, qu'ils aient de l'argent ou pas. Vous voyez, faire tout ce qu'on peut. Pour moi, vous êtes mes enfants. Vous êtes les étoiles que je... Si jamais j'en ai une quand j'arriverai là-bas, vous serez ce joyau, la partie la plus éclatante de la couronne de mon ministère. Quand il sera couronné, c'est vous qui en serez le joyau. Et je vous ai parlé par le passé des sept sceaux, des âges de l'Église et des choses qui sont arrivées. Et maintenant, ce matin, j'ai un sujet très important. Pour moi, c'en est un qui a apporté beaucoup de bénédictions. J'espère qu'il vous fera le même effet. Et si seulement je pouvais le donner dans l'inspiration dans laquelle j'ai reçu, ce serait merveilleux. Mais c'est à Dieu qu'il reviendra de le faire. Je vous ai parlé d'où et de qu'est-ce qui se passe, et nous voyons toutes ces choses se produire. Maintenant, ce matin, je vais parler de la demeure future, de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, où ils vont vivre. Et en effet, j'espère que par la grâce de Dieu, nous sommes tous une partie de cette grande économie de Dieu. Et maintenant, j'espère que vous serez patients avec moi, que vous avez vos Bibles, vos crayons, ou ce que vous faites pour lire avec moi, parce que je vais me référer à beaucoup de passages des Écritures. Je vais essayer de terminer assez tôt pour pouvoir prier pour les malades. Et ça, je l'avais promis. Vous avez prié ces derniers temps, dans les chambres et par là, pour ceux qui n'ont presque plus aucun recours et plus aucun espoir. Et si le Seigneur le veut, je ferai probablement une autre réunion le 16. Peut-être rien que prier pour les malades. Je commence mes vacances maintenant. Depuis janvier dernier, j'ai été en tournée et je reviens ici. J'emmènerai ma famille à Tucson demain matin, et ensuite je reviendrai passer un moment par ici au Kentucky avec quelques-uns de mes amis à la chasse à l'écureuil pour quelques semaines ou peut-être 7 ou 8, 10 jours, quoi que ce soit, à moins que le Seigneur ne me conduise ailleurs. Je ne sais jamais au juste où on va être. Ça, on ne sait jamais, parce que c'est entre les mains de Dieu seul. Maintenant, pour ce grand sujet, j'imagine que si je prenais mon temps pour ça, comme il y a beaucoup de choses à inclure, ça prendrait des semaines. Mais j'ai noté quelques passages de l'Écriture, quelques notes, juste pour en toucher les points principaux, pour que vous puissiez étudier. Et bientôt, peut-être, si le Seigneur le veut, en octobre, je ne sais pas quand, mais quand il pourvoira, j'aimerais prendre quelques jours avec des réunions tout le temps sur le chapitre 12 de l'Apocalypse pour faire le lien avec ceci. Oh, je crois que ce serait glorieux. Tout à fait. Ce serait glorieux de voir comment il a fait. Et puis, quand on se rassemble maintenant, hier soir, je disais, vous savez, le matin, comme chaque matin, je me dis, quand j'arriverai ici, je saluerai chacun de mes amis qui sont là. Mais comment est-ce que je pourrais faire ça? D'avoir ici avec moi, par exemple, mon cher ami, le docteur Lee Vail, qui est assis ici, sa charmante épouse et sa fille, et frère Roy Borders, et je pense frère Ruddle, frère Biller, et frère Palmer, et frère Jackson, et oh là là, ces chers frères qui viennent de partout, frère Anthony Milano, et oh, où qu'on regarde, on voit un autre frère, de là-bas en Arkansas, leur nom m'échappe, frère John, frère Earl Martin et frère Blair. Et oh, il y a vraiment, on n'en finirait pas, vous voyez. Je suis tellement heureux d'avoir un groupe comme ça, rassemblé autour de moi, quand j'enseigne la parole de Dieu. Des hommes dont je pense qu'ils sont des hommes vaillants, de véritables hommes de Dieu. Je suis reconnaissant pour ce petit tabernacle. Je suis reconnaissant pour ces 5 portes qui sont ouvertes au public. Chaque porte, nous avons 4 diacres ici, des hommes remplis de l'Esprit, 4 administrateurs, des hommes remplis de l'Esprit. Il y en a 2 à chaque porte, et il y a une porte double à l'avant pour les 2 pasteurs, les bergers. On est heureux de vous avoir, on en est reconnaissant à Dieu, qu'il vous bénisse à jamais. Maintenant, nous voulons nous lever un instant alors que nous lisons dans 2 Pierre, le chapitre 3, également dans le livre d'Apocalypse 21. Alors que nous sommes debout, ô Seigneur, remplis nos cœurs d'allégresse à cause de la lecture de ta parole. Car nous savons que Jésus a dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. Nous savons encore qu'il a dit, toute l'Écriture doit s'accomplir. Et alors que nous lirons ces choses, puissions-nous recevoir de toi une compréhension de l'heure dans laquelle nous vivons. Nous le demandons au nom de Jésus, l'auteur du livre. Amen. 2 Pierre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et des commandements du Seigneur et Sauveur enseignés par les apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Si ça ne correspond pas à cette femme infidèle? Et depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et pour la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Or, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, En ce jour, les cieux et la terre, avec fracas, passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, se consumera. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devons-nous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelles terres, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à ne pas être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Croyant que la patience du Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait, toutes les lettres où il parle des choses, lesquelles il y a des fois difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies luttent, tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Maintenant, dans l'Apocalypse de Christ, au chapitre 21, je lis ces paroles. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec l'homme. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement est la fin. À celui qui a soif, je donnerai des sources de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Prions encore. Seigneur Jésus, avec une telle promesse et un discours aussi ferme que Jésus lui-même et l'apôtre nous ont donné au sujet de l'heure dont nous approchons, donne-nous, ô Seigneur, de ta conduite, afin que nous sachions l'aborder de la bonne manière. En effet, elle vient, nous le savons. Les Écritures doivent s'accomplir, et c'est ainsi qu'il en sera. Et maintenant, Seigneur, nous demandons encore que ta miséricorde soit sur nous tous, alors que nous allons étudier ta parole. Accompagne-nous et ouvre-la nous, Seigneur, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je me demande s'il n'y aurait pas moyen peut-être qu'on éteigne les lumières de la salle principale et qu'on laisse allumer seulement celle de l'estrade ici. Ce serait probablement mieux, ça enlèverait un peu de courant. On a failli brûler un transformateur l'autre soir. Alors, si le concierge veut bien faire ça pour nous, on aimerait que les lumières de fond soient éteintes, que les lumières principales de la salle soient éteintes. Et je pense que vous aurez bien assez de lumière pour voir, pour écrire. Maintenant, mon sujet, pour l'annoncer encore, que nous abordons le sujet de la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Maintenant, comme il y a, je vais devoir faire ça. Il fait vraiment trop chaud ici sur l'estrade, vous voyez. Oui, monsieur. Comment? Je sais que ma femme n'aime pas que je fasse ça, mais que j'enlève mon veston. Il fait vraiment trop chaud ici sur l'estrade. Vous voyez, là-bas, vous avez de l'air, alors qu'ici, c'est séparé. C'est un peu en retrait, vous voyez. Maintenant, à l'avenir, ou par le passé plutôt, nous avons étudié les sept sceaux, les sept églises. Frère Vail et les autres sont en train de travailler là-dessus maintenant, fidèlement, pour les mettre sous forme de livres. Et en voyant toutes ces choses mystérieuses que nous avons vues s'accomplir, je pense qu'après avoir compris ça, dans l'heure où nous vivons et la position, il n'y a personne, pour peu qu'il soit prêt à s'asseoir en toute lucidité, examiner de quoi il a été parlé, et ce qui est promis, qui doit arriver, et ce qui est arrivé, qui ne puisse pas dire que ces choses sont accomplies. Voyez, exactement ce que Dieu a dit qu'il ferait, il l'a fait à la lettre, exactement, voyez. Maintenant, je pense que, vu que nous ne savons pas à quel moment le Seigneur Jésus apparaîtra, j'ai pensé qu'il serait bon, il semblait agréable au Saint-Esprit qu'on parle de ceci donc, et peut-être qu'on revienne là-dessus, deux ou trois fois, parce que je n'aurais pas tout à fait assez de temps pour apporter tout ça. C'est comme quand on touche un sujet qui peut-être achoper un peu quelqu'un, qu'on ne peut pas le développer complètement et le rendre clair, ensuite on revient prendre le sujet suivant. Alors plus tard dans... si le Seigneur le veut, on entrera dans le 12e sceau ou pas, excusez-moi, le 12e chapitre de l'Apocalypse qui se situe entre la venue du Seigneur et la fin des trompettes, et ainsi de suite. On essaiera de ramener tout ça, de montrer qui est Satan et ce qu'il a fait, d'où il est venu, quel est son but et comment sa grande beauté qui lui a été donnée a provoqué sa chute. C'est sa séduction qui a causé sa chute, la beauté. Ensuite, comment il est impossible pour tout homme qui veut considérer ça comme il faut, la semence du serpent. Là-dessus, je défierais quiconque, vous voyez, qui voudrait le considérer avec simplement un peu de bon sens. Un enfant peut le voir, voyez. Bon, et on y viendra plus tard. Maintenant, nous comprenons ici que ces deux passages de l'Écriture, la raison pour laquelle j'ai lu 2 Pierre au chapitre 3 et que je l'ai comparé à Apocalypse 21, c'est que les deux, là, parlent du même sujet. Seulement Jean ne l'a pas du tout écrit comme Pierre l'a fait. Voyez? Nous comprenons que cette glorieuse maison de l'épouse doit être ici, sur terre. Et maintenant, si vous lisez comme le chapitre 21, au chapitre 21 de l'Apocalypse, l'apôtre a dit ici, ou le prophète a dit que « Je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre ». On dirait qu'il y a un anéantissement. Maintenant, la façon dont je trouve mes messages, c'est toujours par la prière. Je suis assis en train de prier et quelque chose m'est révélé. Et j'attends quelques minutes pour voir si c'est correct, alors je le sens plus proche. Et des fois, je continue d'attendre jusqu'à ce que ça se transforme en une vision. Mais quand ça commence à venir, et que je suis convaincu que ça vient de Dieu, alors je prends l'Écriture. Vous voyez, c'est, devrait être la confirmation de toute chose spirituelle qui est faite. Parce que la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Voyez-vous, elle est son corps. Et maintenant, en faisant ça, il se peut que je trouve un passage de l'Écriture qui n'a pas l'air tout à fait juste. Et je me pose des questions. Je me remets à prier, ça revient. Alors je me mets à examiner mon passage de l'Écriture. Or, notre Bible est écrite en anglais, et les mots de l'anglais changent tout le temps. Par exemple, comme Jean 14 qui dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, une demeure dans une maison. » Bon, alors, à ce moment-là, ce qu'on en fait, c'est qu'on reprend l'original pour voir ce que Jacques voulait dire, ou on reprend l'hébreu ou le grec de la première traduction. Et là, il est dit, il y a plusieurs palais dans le royaume de mon père. Eh bien, alors, si vous revenez à l'époque où les traducteurs ont traduit pour le roi Jacques en anglais, le royaume était appelé une maison, et le roi était le père au-dessus de ses délégués. C'est la raison pour laquelle ils ont traduit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père ». Voyez? Donc, vous tombez sur ces mots et vous devez faire des recherches. Alors, vous voyez, de cette inspiration, cette chair ce matin, je dirais, pas une seule fois, ça n'a été autre chose que l'Écriture, rien d'autre. C'est comme ça que la semence du serpent et toutes ces autres choses sont venues. Voyez, par, et c'est vraiment, si quelqu'un se contentait de lire en disant, « Il y a plusieurs demeures de la maison de mon père », si vous ne vous arrêtiez pas pour étudier, pour prier, vous seriez tout désorienté, voyez. Mais continuez simplement à prier. Dieu arrange toujours ça, si ça vient de Dieu. Maintenant, Jean explique le changement, et la veine, comme ça vient, ou plutôt, il ne l'explique pas, mais c'est Pierre qui l'explique. Jean a seulement dit, « Je vis de nouveaux cieux et nouvelles terres. Les premiers cieux et la première terre avaient disparu. Il n'y avait plus de mer. Moi, Jean, je vis la ville sainte descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Mais maintenant, on revient à 2 Pierre pour voir. Pierre explique comment tout ça va se dérouler. Maintenant, si vous regardez ce que Jean a dit, il semble que, « Car les premiers cieux et la première terre avaient disparu. » Anéanti, vous voyez? Alors ça a vraiment l'air bizarre. Et c'est ça qui m'a frappé. Alors je me suis mis à chercher le mot « disparaître ». Et maintenant, mais il est clair que les deux, l'apôtre et le prophète, ils parlaient de la même chose. Et maintenant aussi, dans le livre d'Ésaïe, maintenant pour vous qui voulez noter ces passages de l'Écriture, dans Ésaïe 65, 17. Ésaïe parle du millénium, de ces 1000 ans de repos pour le peuple de Dieu. Ésaïe en a parlé et il a dit, toutes les choses passées avaient disparu et qu'il construirait des maisons et les habiterait. Si on avait le temps, on va peut-être juste prendre le temps et lire ceci juste un instant. Ésaïe 65 et lisons là pendant quelques minutes. C'est là, tout à fait, pour nous. Maintenant, pour commencer, Ésaïe 65, 17. « Et je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Maintenant, Ésaïe, le prophète, a été un des prophètes qui a écrit très précisément toute la Bible dans sa prophétie. Il commence par la création, au milieu de son livre, vers le chapitre 40, voilà Jean-Baptiste qui arrive, le Nouveau Testament, et ça se termine ici, dans son livre, dans l'Apocalypse, dans le millénium. Il y a 66 livres dans la Bible, et il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Il a écrit un commentaire complet. Maintenant, nous voyons qu'il en est au chapitre 65. Il reste un chapitre, et il parle du millénium. Remarquez comme c'est beau, car je vais créer un nouveau ciel et nouvelle terre, on ne se rappellera plus la chose passée, elles ne reviendront plus à l'esprit. C'est ça, disparaître. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse. Et à cause de ce que j'ai créé, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, car, et le bruit des cris. Il n'y aura plus enfants et vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alors, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. C'est-à-dire, votre ferme, votre fils en devient héritier, ou l'un de vos héritiers. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Ils plantent pour eux-mêmes et ils restent là. Ils ont la vie éternelle. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront des œuvres de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Maintenant remarquez, voici à quoi je vais en venir dans un moment. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Et le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme un bœuf, mangera de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Quelle promesse de ces prophètes et ces grands sages, ces enseignants de la Bible, il y a bien longtemps, dans les jours anciens, qui ont vu venir ce jour glorieux. D'après ces passages, quelqu'un pourrait penser, ou plutôt être porté à croire, que la planète tout entière, cette terre, sera détruite. Je ferai un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous voyez que les cieux auront disparu et que la terre aura disparu, complètement anéantie. Mais en examinant ça de près, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons voir la vérité à ce sujet. Et c'est ce que nous allons étudier. C'est seulement les atmosphères qui l'entourent et le péché qui est sur la terre qui vont être détruits. Voyez, maintenant nous comprenons que les cieux, ça veut dire les atmosphères d'en haut. Voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'alors, tout ça, ces chardons et la maladie et la mort et la politique et les pécheurs et les pécheresses et les mauvais esprits, tout ça aura disparu, sera anéanti. Voyez? C'est comme ça que ça doit arriver, puisque nous allons vivre ici même. Nous allons le prouver par la Bible. C'est ici même que nous allons vivre. Maintenant, remarquez, les chardons, les microbes, toutes les maladies et tout, ce sera complètement éliminé. Tout ça, cette existence qui est sur terre maintenant, les systèmes faits de main d'homme, la politique, le péché, toutes les sortes de mauvais esprits par lesquels le monde est contaminé, et tous les cieux au-dessus de nous ici sont contaminés par des mauvais esprits. Maintenant, on va voir ça en long et en large, vous voyez? Tout ça, ça existe dans les cieux, ou les atmosphères, et la terre qui existe maintenant. Cette terre renferme ces choses maintenant. Mais ce n'est pas dans ce but-là qu'elle a été faite. C'est le péché qui l'a rendue comme ça. Voyez? Elle a été faite par Dieu, le Créateur. Mais tout, et tous nos corps dans lesquels nous vivons maintenant, ont été mis sur la terre quand Dieu l'a créé, parce que vous venez de la poussière de la terre. Tout avait été déposé ici. Quand Dieu lui-même l'a créé, vous étiez dans sa pensée. Et en lui, le grand éternel, il y avait la pensée qui est son attribut. Maintenant, c'est à cause du péché que tout ça est arrivé. Et Dieu, à travers cet âge-ci, rassemble ses matériaux. Satan est encore ici. C'est pour ça que toutes ces choses arrivent. Il est encore ici, et toutes ces forces du mal sont encore ici. Remarquez, c'est pour ça que maintenant, la terre est tellement souillée. C'est pour ça qu'il y a toute la saleté et les choses ridicules qui se produisent. Le sang qui coule, la guerre, la politique, le péché, l'adultère, toutes sortes de souillures qui se produisent. C'est parce que c'est Satan qui gouverne cette terre et cette atmosphère. Vous dites, l'atmosphère, oui monsieur. Les cieux comme la terre sont maintenant contaminés par des démons qui peuvent nous accuser devant Dieu. Jésus est là pour intercéder pour nous. Oui, voyez, alors que les accusateurs n'arrêtent pas de montrer du doigt, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, mais le sang couvre toujours. Il est venu racheter cet élu qu'il avait vu d'avance. C'est pour ça que c'est tellement souillé aujourd'hui. Ici, l'apôtre dans 2 Pierre, ici, chapitre 2, et au verset 5 et au verset 5 et 6, oui, je l'ai. Il parle des trois étapes de la terre. Vous voyez, il en prend trois étapes. Remarquez comment il les apporte. L'ancien monde a été tiré de l'eau. Maintenant, ça, c'était le monde antédiluvien. Maintenant, celui qui existe, le monde actuel dans lequel nous vivons maintenant, il l'a appelé un monde. L'ancien monde qui a été tiré de l'eau. Genèse 1:1. Bon, est le monde qui existe maintenant. Et puis, il parle aussi d'un autre, le monde à venir, le nouveau monde. Trois mondes, trois étapes du monde. Et remarquez comme Dieu nous montre clairement son plan de rédemption. Oh, ça a vraiment rempli mon âme d'enthousiasme quand je l'ai vu. Comment il nous montre clairement son plan de rédemption, là. Maintenant, comparons ce que nous voyons de nos propres yeux. Ce que Dieu a fait pour racheter son monde, il a formé le même plan pour racheter son peuple. Car le Dieu immuable ne change aucun de ses plans, ni quoi que ce soit. C'est une chose tellement glorieuse. Comment il nous a conduits à lui, à un tabernacle en nous, par trois étapes de la grâce, exactement comme il a conduit le monde dans trois étapes, pour venir dans le monde. Comme Dieu viendra dans le monde après que celui-ci aura passé par trois différentes étapes de purification. C'est exactement comme ça qu'il vient à nous, par trois étapes de la grâce. J'enseignais ça au début, je n'ai jamais changé depuis. C'est la parole de Dieu. Vous devez garder vos trois ensemble, vos sept, vos douze. Les nombres de la Bible doivent coller parfaitement, sinon votre tableau sera tout mélangé. Si vous ne pouvez pas le comprendre, vous n'avez qu'à continuer à prier. Vous verrez, ça s'ajustera exactement, tout à fait. Dieu est parfait en trois. Voyez, remarquez. L'ancien monde, l'antédiluvien, le monde qui existe actuellement, est celui à venir. Maintenant, la première étape à laquelle il nous amène, vous voyez, son plan de rédemption est exactement le même en toutes choses. Il utilise la même méthode. Il ne change jamais. Il a dit dans Malachie 3, « Je suis Dieu et je ne change pas ». La façon dont il le fait, donc, s'il a sauvé le premier homme, qu'il n'ait jamais sauvé par le sang versé d'un innocent, il devra sauver le suivant. Et ça devra être pareil pour tous ceux qu'il sauvera. Si, à un certain moment, il a guéri un homme au cours du voyage de la vie, que ce soit au jour de Jésus, des apôtres, des prophètes, n'importe quand les mêmes conditions sont remplies, il doit le faire de nouveau. C'est vrai, il ne change pas. L'homme change, le temps change, l'âge change, la dispensation change, mais Dieu reste le même. Il est parfait. Quelle espérance ça devrait donner aux malades? Si jamais il a guéri quelqu'un, il doit le faire de nouveau quand les mêmes conditions sont remplies. Si jamais il a sauvé un homme, il doit le faire sur la même base qu'il l'a fait la première fois. Si jamais il a rempli un homme du Saint-Esprit, il doit le faire sur la même base qu'il a fait la première fois. Si jamais il a ressuscité un homme de la tombe, il doit le faire la deuxième fois et toutes les autres fois sur le même principe. Il ne change pas. Oh, quelle espérance ça me donne! Qu'est-ce que c'est? Pas dans une théorie faite de main d'homme, quelque chose que des groupes d'hommes se sont rassemblés, mais sa parole immuable. Vous dites, est-ce que c'est la vérité? Il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Car les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Toute écriture est donnée par inspiration, est donc bonne et utile pour enseigner. Et souvenez-vous que toute l'écriture s'accomplira, chaque parcelle. Remarquez comme Dieu nous le montre clairement. Et si ça, ce n'était pas une grande confirmation, une bonne, une grande bénédiction remplie de tendresse de la part de Dieu. Quand je vois ça, et que je vois que depuis la toute première fois que Christ a traité avec moi, quand j'étais tout jeune, j'ai toujours continué à enseigner ces trois étapes de la grâce. Remarquez si ce n'est pas vrai maintenant. Maintenant, le premier pas, c'est la repentance envers Dieu. Et ce qui vient ensuite, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est le baptême d'eau qui suit pour montrer que la repentance était authentique. Ou pour remettre nos péchés passés. Ça n'a rien à voir avec le péché futur. Ça ne fait que remettre. Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la rémission. Enlever le péché passé. Ça n'a rien à voir avec l'avenir. C'est seulement que votre péché a été retranché. Ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas vous repentir de ce qu'Adam a fait. Ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est Adam. Vous obtenez simplement le pardon de ce que vous avez fait. La vieille nature est encore là. Je vais prendre le tableau un instant. Maintenant, ici, il y a un cœur humain. Maintenant, je suis bien loin d'être un artiste. Ici, il y a un cœur humain, et ici, il y a un cœur humain. Maintenant, celui qui est ici, il a un serpent à l'intérieur, c'est le péché, et ici, il a sa vie. Celui qui est ici, il a une colombe à l'intérieur, qui est le Saint-Esprit, ici, il a une vie. Eh bien, celui-ci, il a de la méchanceté, de la haine, de la jalousie, et ce qui fait ça, c'est lui, ici. Eh bien, et celui qui est ici, il a de l'amour, et de la joie, et de la patience, et c'est à cause de ce qui est à l'intérieur, ici. Maintenant, quand on vous demande, ou que vos péchés vous sont pardonnés, tout ce que vous avez fait, c'est ceci, d'enlever ça. Mais la chose qui vous le faisait faire est encore là. C'est la vieille racine du mal. Elle est encore là. Remarquez. Alors, vous vous repentez et vous êtes baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour montrer que lui vous a pardonné vos péchés. Remarquez. Ensuite, deuxièmement, vient la sanctification qui met notre pensée en ordre pour la sainteté, pour avoir des pensées correctes. Enlevez. Sanctification, c'est un mot grec composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Ensuite, ce qui vient après, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit pour que Dieu habite en nous. Et le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché et met le Saint-Esprit à l'intérieur. Alors, nous produisons la même vie que ceci produisait. Parce que c'est en nous. Remarquez, dans la naissance naturelle, quand une femme donne naissance à un bébé, la vie naturelle est le type de la vie spirituelle. Quand une femme donne naissance à un bébé, dans le naturel, la première chose qui se passe, c'est la rupture des os, ensuite le sang, et ensuite l'esprit, la vie. Attrapez le tout petit et donnez-lui une fessée, et le voilà qui se met à crier. L'eau, le sang, l'esprit. Et maintenant, quand un bébé naît dans le royaume de Dieu, il vient de la même manière. L'eau, le sang, l'esprit. Maintenant, remarquez, la sanctification, la troisième étape, la deuxième étape, elle nettoie la pensée, elle met le cœur, la pensée du cœur dans l'ordre de la sainteté. Un homme peut se repentir de ses péchés et toujours penser à, eh bien, peut-être que c'est un homme immoral. Chaque femme d'apparence immorale qu'il trouve, c'est toujours là. Peut-être que c'est un ivrogne. Chaque fois qu'il sent l'odeur de la boisson, c'est toujours là. Voyez? Mais quand il est sanctifié, là, il est nettoyé. Ça enlève ce désir de lui. Voyez? Ça en enlève le besoin. Il peut encore être tenté, mais il en enlève le besoin. Pourtant, il n'est pas encore en règle. Ensuite, il est baptisé du Saint-Esprit et de feu, purifié, consumé, nettoyé, et ensuite mis au service de Dieu. La sanctification ne fait que les mettre à part pour le service. Et remarquez exactement comment c'est venu, la venue des messages. Martin Luther, la justification. John Wesley, la sanctification. Les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit. Les messages, c'est pour ça qu'il ne peut plus y avoir d'autres âges, vous voyez? On est au temps de la fin. Trois étapes. Le baptême purifie le cœur par le Saint-Esprit. Comme c'est frappant, il fait passer l'endroit où nous devons habiter par le même processus. Maintenant, il a appelé l'Église à passer par la justification, il l'a appelé à passer par la sanctification, et ensuite, il l'a rempli du Saint-Esprit et de feu. Il l'a fait passer par un processus pour que lui-même, le Saint-Esprit lui-même, le Fils de Dieu, puisse habiter dans le cœur humain. Maintenant, elle doit passer par là avant qu'il puisse entrer en elle. Remarquez, pour le monde dans lequel l'épouse va vivre, il a agi de la même manière, son même plan de salut. Remarquez, le monde antédiluvien, il, après qu'il s'est repenti par l'entremise de l'épouse de cette époque, de Noé, il lui a donné un baptême d'eau, il l'a recouvert d'eau, donc la justification pour montrer qu'il était en voie d'appeler ce monde déchu depuis l'Éden à revenir à sa restauration. Ensuite, Christ est venu et a versé son sang dessus pour le purifier et pour le revendiquer. Vous voyez, c'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. Vous voyez comment Satan, ici dans l'Écriture, a essayé de lui faire démolir le plan de Dieu pour le recevoir, de le lui donner quand il l'a emmené sur la montagne et qu'il a essayé de le lui donner sans le rachat par le sang. Avez-vous remarqué comment Abraham, quand ils ont essayé de lui donner la terre, il l'a acheté pour tant de sicles d'argent devant le peuple comme un signe, comme témoignage. Sachez aujourd'hui que j'ai acheté ce lieu de sépulture. Vous voyez, l'acheter. Et Satan a essayé de lui donner le royaume qui lui appartient en ce moment. Il a essayé de le lui offrir en cadeau, mais il n'a pas voulu l'accepter. En effet, c'est, vous voyez, à ce moment-là, Satan aurait pu avoir encore des droits dessus. Mais il fallait qu'il soit acheté. Amen. Il était la parole dans sa plénitude. On n'aurait pas pu le tromper pour l'amener à faire ça. Et maintenant, elle doit recevoir un baptême de feu. Vous voyez, maintenant il a... Qu'est-ce qui s'est passé? Christ est venu appeler l'Église à la repentance, au baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission, sanctifier l'Église, et avec le feu de Dieu, il descend consumer toute la souillure, et il vient habiter dans le cœur humain. Maintenant, le monde, pour le racheter, pour cette personne rachetée, il utilise sa même méthode. Il l'a baptisé d'eau après la destruction antédiluvienne. Il a versé son sang dessus pour le sanctifier et le revendiquer. Il est à lui. Satan a essayé de dire, « Je vais te le donner. » Il a dit, « Non, monsieur, je vais l'acheter. » Que cela serve de témoignage. Il a été élevé comme signe de ce qu'il a acheté. Il l'a acquis. Mais maintenant, il doit passer par un baptême de feu, de saint feu de Dieu, qui purifie la terre et les cieux qui l'entourent. Alors, elle sera acquise pour que les rachetés puissent y vivre, et vivre en paix. Remarquez, le baptême de feu doit la purifier du péché, de la maladie, des germes de maladie, des pécheurs, du diable et de tout son clan. Il doit être précipité dans l'étang de feu. Le saint feu de Dieu descend du ciel, d'auprès de Dieu, et la brûle. Remarquez, pour la préparer pour que Dieu y habite. En effet, Dieu, dans le nouveau monde qui est à venir, doit habiter la terre. Parce que, vous dites, Dieu, il habite dans le cœur humain. Mais lui et l'épouse deviennent un, et ils vont à leur demeure dans le nouveau monde. Et le même plan de rédemption est utilisé pour racheter les deux, le monde et les personnes qui y vivent. Vous voyez, le cœur doit être purifié de cette façon-là. Avant que Dieu ne puisse descendre en la personne du Saint-Esprit, qui est Christ, qui descend habiter dans le cœur humain, il doit d'abord s'être repenti. Il doit avoir été baptisé d'eau en son nom pour montrer à qui il appartient. Ensuite, il doit être purifié par le sang de Jésus. Alors le Saint-Feu et le Saint-Esprit de Dieu descendent brûler tout le désir du péché, toute la nature du monde. Ainsi donc, celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Et là, de nouveau, la Bible dit, il est impossible, car un homme qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Il ne pêche pas. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse pécher. Comment peut-il être un pécheur et un racheté en même temps? Comment est-ce que je peux être dans la maison de prêt sur gage et en dehors de la maison de prêt sur gage en même temps? Voyez? Oh, il nous a rachetés par son sang, par son esprit, il nous a purifiés. Et ensuite, il vient habiter en nous, l'Église. Pas la dénomination maintenant, l'Église. Soyez bien attentifs maintenant, comme on va prendre ceci, les endroits où on va habiter. Maintenant, la repentance antédiluvienne, donc, elle a apporté le baptême d'eau. Ensuite, Christ est venu et il a versé son sang dessus pour le purifier et le revendiquer. Et après ça, ensuite, vient la destruction du monde comme il est maintenant. Tout le péché qui est en haut, dans les cieux, il est le prince de la puissance de l'air. Il éloigne, combat pour arrêter les bénédictions de Dieu. De là, il y a des coups de tonnerre et des éclairs qui viennent frapper la terre et tout, du ciel. Des nappes de glace et de pluie, et des typhons, des tifs, des tempêtes et tout. Ça vient d'en haut, c'est-à-dire de Satan, le prince de la puissance de l'air. Remarquez, vous voyez comment Satan a essayé de le prendre, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, en le donnant à Jésus sans qu'il ne l'achète. Alors Satan garde un droit, parce que ça porte sa marque, vous voyez? Mais Jésus l'achète par son sang versé et le rapporte au propriétaire légitime. Voyez? Voilà comment il nous a rachetés, nous, par son sang. Comment il a racheté l'Église. Et maintenant, son baptême de feu le purifie de tous les germes, de toutes les maladies, de toutes les affections, même de toutes les choses spirituelles. Ce qui est aussi pour nous, ça se passe de la même façon, pour la préparer, pour que Dieu puisse y habiter, dans cet âge glorieux à venir, la nouvelle terre. Vous voyez, il la rachète de la même manière qu'il rachète son peuple. Il fait tout exactement pareil, son plan de rédemption. En effet, il est le Dieu qui ne change pas, toujours pareil dans ses plans. Combien je vous ai dit par le passé, et combien je vous l'ai fait savoir, et par tous les âges, que Dieu ne peut pas changer. Il le fait connaître partout de la même manière. Il l'a fait connaître, son premier message, dans le monde antédiluvien, par le prophète Noé. Je parlais avec un cher frère qui est assis présent avec moi en ce moment. Hier, il disait, « Il y a une chose que vous avez dite, frère Branham, qui m'a toujours secoué. » J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est, frère ?» Et il a dit, « Voilà ce que vous avez dit. » Et c'est vrai, la minorité, comment un petit groupe va être sauvé au jour de la venue. Et nous avons parlé de ce que Jésus a dit, « Étroite est la porte, et resserrée est le chemin, et il n'y en aura que peu qui le trouveront. » Maintenant, remarquez, la Bible a dit, comme il en a été au jour de Noé, où 8 âmes ont été sauvées par l'eau, il en sera de même à la venue. J'ai dit, frère, vous n'avez que... Il disait, souvenez-vous, il n'y a que 8 âmes là. J'ai dit, vous n'avez que la moitié du tableau. Encore là, Noé était un type du reste qui passe à travers. Pas du groupe de ceux qui sont enlevés. C'est Enoch, un seul homme qui est parti dans l'enlèvement avant l'arrivée du déluge, pour montrer que l'Église n'entre pas dans la tribulation, ni rien dans ces parages-là. Enoch a été enlevé, un seul homme. Oh, l'Église peut bien être un certain nombre, mais l'épouse sera un très petit groupe qui formera l'épouse. Maintenant, l'Église peut bien être un grand nombre. Mais l'épouse, vous voyez, comparez 8 à 1. L'épouse sera 8 fois moins que l'Église. Et si le juste sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ceux qui sauraient mieux faire, mais qui le font quand même. Ceux qui suivent les règles des dénominations au lieu de la parole. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, eux? Bien qu'ils se disent chrétiens, qu'ils prennent le nom de Christ. Maintenant, parfaitement. Noé était un type de ceux qui passent à travers. Souvenez-vous, quand Noé est sorti, Cham était avec lui. Il y avait encore du péché là-dedans. Le péché est passé de l'autre côté, dans l'arche. L'incrédulité, le doute ont traversé dans l'arche, porté au-dessus du jugement. Mais Enoch est allé plus haut que l'arche. Il est allé jusque dans la présence de Dieu. Mais Noé a traversé, il est ressorti, et le péché était toujours là, un type du millénium, de l'état du monde. Le millénium, ce n'est pas la fin. Il y aura encore du temps après le millénium. Le millénium, c'est un espace de temps, mais pas la nouvelle terre. Non, pas du tout. Remarquez, là-dedans, on va y arriver dans pas longtemps. Vous voyez, la terre, rachetée, retourne de nouveau à son propriétaire originel. Ça a pris, il l'a prise à Satan. Il a arraché, a enlevé la terre à Satan, tout comme il vous a enlevé, vous, à Satan. Comme il a enlevé la femme au puits, là, à Satan. Le sacrificateur était là, il croyait qu'il était avec Dieu, et il n'avait rien. Voyez, je voudrais prendre un instant pour vous dessiner ça. Maintenant, on veut que ce soit bien clair, alors soyez bien attentifs, là, à cet enseignement. Maintenant, ça, ici, c'est Dieu. Dieu qui est l'éternel. Sans, il n'y a personne d'autre que lui. Mais en Dieu, il avait des attributs. Maintenant, ça, ici, ça représente la parole de Dieu, qui a été faite chair et qui a habité parmi nous dans la personne de Jésus. Maintenant, ça, ici, lui, ici, on va le faire comme ça. Maintenant, ça, on l'appelle la femme au puits. Ça, c'est le sacrificateur, le pharisien. Et ce que vous voyez ici, le reste du tableau, ça représente la grâce et le salut. Maintenant, au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Les trois étapes, c'était d'abord un attribut, c'était en Dieu, quand, en pensée, il s'est vu en tant qu'être humain. Et ça, ça l'a mené en bas, à devenir Jésus. Et maintenant, pour que vous puissiez un jour être là, il faut que vous ayez été avec lui à ce moment-là. En effet, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Et il fallait que vous soyez une partie de Dieu au commencement, pas ce que vous avez seulement choisi ici-bas. C'est lui qui vous a choisi. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Maintenant, regardez ce sacrificateur ici. On voit son fond, ici, sa vie, en arrière, là, derrière lui, sa prédestination, ici, elle est dans le péché. Ici, c'est l'enfer, par ici. Maintenant, la petite partie à l'intérieur, ici, qui est comme le tableau, ça représente sa pureté. Il était sacrificateur. C'était un homme honorable. Ça représentait ceci. Il était aussi, il devait être un homme bon, sinon il n'aurait pas pu être sacrificateur. Seulement, vous voyez comment il avait reçu ça? C'était par une instruction intellectuelle. Maintenant, cette petite femme, sa première vie, là, elle était une prostituée. Elle était toute corrompue. Mais au fond d'elle-même, ici, il y avait un tout petit peu de compréhension. Je sais que quand le Messie sera venu, voyez? Vous voyez, c'était là. Remarquez, quand Jésus est venu et qu'il a manifesté la parole, puisque la parole discernait les pensées qui étaient dans le cœur. Comme Hébreux 4 dit qu'elle le fera, 4:12, qu'il le ferait, la parole discernait les pensées des cœurs, et il est venu comme le Fils de l'homme, le prophète. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce sacrificateur, qui n'avait qu'une instruction intellectuelle, a dit, « C'est un démon, parce que c'est comme ça que sa dénomination l'appelait. » Qu'est-ce que ça a fait? Il n'avait pas de représentation, donc ça l'a plongé dans les ténèbres. Mais cette petite femme n'avait rien à présenter. Elle était aussi souillée et sale qu'elle pouvait l'être. Mais remarquez, au fond d'elle-même, elle a une représentation, vous voyez? Et donc, elle s'attendait à ce que ça se soit incarné. Et quand il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici », elle a dit, « « Monsieur, je n'en ai pas. » Il a dit, « Tu as dit la vérité, car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. Tu en as eu cinq, ça fait que tu en as six. » Elle a dit, « Monsieur, pas, tu es pas Belzébul. Je vois que tu es un prophète. » Et nous savons que le Messie, qu'on appelle Christ, va venir. Et quand il viendra, il fera ça. Il a dit, je le suis. Plus aucun doute. Il n'y avait pas besoin de l'expliquer. Elle le voyait. Elle le croyait. La voilà partie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça lui a fait? Ça l'a racheté. Maintenant, remarquez bien, il est venu pour être un rédempteur. Pas vrai? Que veut dire racheter, ramener? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le sacrificateur? Lui, il n'a jamais été là-haut. Vous voyez, il n'avait pas de représentation. Il est venu racheter ce qui était déchu. Par la chute, ça avait été gâché pour cette fille. Mais Dieu l'avait dans sa pensée avant la fondation du monde. Et il est venu la purifier. Voyez? Alors elle avait la vie éternelle, voyez? Alors que le sacrificateur, qu'est-ce que ça lui a fait? Ça l'a renvoyé tout droit à sa destination. Il n'avait rien au départ, rien qu'une instruction intellectuelle. Maintenant, écoutez mon ami, si tout ce que vous avez, c'est une instruction intellectuelle, recevez autre chose que ça. Et vous ne pourrez jamais le recevoir à moins d'avoir une représentation. C'est pour cette raison, je crois, que vous venez de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. La parole vivante, manifestée. Et remarquez comment il fait connaître sa manière par ses prophètes au commencement. Il n'a jamais changé ça. Le salut, il a justifié un homme, il l'a sanctifié, il a envoyé le Saint-Esprit et le feu, et il a brûlé tout le péché de lui, et il a habité en lui. Lui-même, il le fait pour la terre qu'il va utiliser dans un plan de rédemption de la même manière. Elle s'est repentie et elle a été baptisée d'eau par Noé. Jésus est venu la sanctifier en laissant couler son sang dessus et il l'a revendiquée. Et dans la nouvelle terre qui est à venir, elle va avoir un baptême de feu saint pour la purifier de tout démon, de tout germe, de toute maladie, de tout ce qu'il y a et pour la renouveler. Je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous devenez une nouvelle personne. Amen. Pas juste une ancienne qui a été rapiécée en adhérant à une église ou en essayant de tourner la page, mais vous êtes une unité complètement neuve. Dieu prend le vieil homme et le consume complètement par le Saint-Esprit et le feu, et il vient lui-même. Il fait descendre votre représentation. Aucun homme ne peut venir à moi sans que mon Père ne l'ait attiré. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Vous le voyez? Le même plan, la même manière. Satan va être ôté de la terre, exactement comme Satan a été ôté de vous. Satan ne peut pas troubler, ou il peut tenter, mais il ne peut pas s'emparer d'un chrétien né de nouveau. En effet, Dieu, dès la fondation du monde, l'a vu d'avance. Il a envoyé Jésus pour le racheter. Et le sang parle pour lui. Comment peut-il pécher alors que ça ne peut même pas être vu par Dieu? Il ne peut même pas. La seule chose qu'il entend, c'est votre voix. Il voit votre représentation. Amen. C'est bien vrai. Voyez? Par la même méthode, car le monde est un de ses attributs, tout comme vous, vous êtes un de ses attributs. Le monde devient un de ses attributs, parce que c'était la pensée de Dieu au commencement d'avoir un monde, d'être sur un trône, d'être un roi, d'être un rédempteur, d'être un guérisseur. Ce sont ses attributs, tout comme un attribut qui vient de vous. Je ne peux pas dire un poteau à moins de penser à un poteau. Je ne peux pas dire homme à moins de penser à un homme. Et quand je pense à un homme, et puis que je dis homme, la pensée, c'est mon attribut. Et l'expression, c'est la parole. Voyez? Comme Ésaïe. Comment est-ce qu'il pouvait dire qu'une vierge allait concevoir? Qu'est-ce qu'une pensée? Maintenant, beaucoup d'entre vous se demandent comment ce discernement vient. Je vais vous le dire. Vous voyez, c'est une parole que je dis. Et ce n'est pas ma pensée, parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la pensée, là. Comment est-ce que je peux vous dire qui vous êtes et d'où vous venez, alors que je ne vous connais pas? Comment est-ce que je peux vous dire ce que vous avez fait il y a 10 ans, alors que je ne vous ai jamais vu de ma vie? Comment est-ce que je peux vous dire où vous allez le faire et ce que vous allez faire dans 10 ans? Comment est-ce que je connais l'avenir? Mais c'est la pensée de quelqu'un d'autre. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Vous voyez, à ce moment-là, ce ne sont pas vos pensées à vous, ce sont ses pensées à travers vous. Et vous n'exprimez pas vos propres paroles, vous exprimez ses paroles. C'est comme ça que souvent les frères sont dans la confusion sur l'interprétation des langues et tout. Vous voyez, ils disent des choses qui ne sont pas correctes. Ils ne se rendent pas compte que c'est Satan. Vous dites, dans le jardin de Dieu, attendez simplement qu'on y arrive. On va voir si ce n'est pas ça ou pas. Les mauvaises herbes et le blé poussent dans le même champ. Ils vivent tous les deux par le même soleil et la même pluie. Voyez? Mais s'il y en a un parmi vous qui est prophète, moi, le Seigneur, je lui parlerai. Et si ce qu'il dit arrive, alors c'est moi. Vous voyez? Parce qu'il ne l'exprime pas de lui-même. Ce sont mes pensées à moi qu'il exprime, mes attributs des choses qui doivent venir, et j'utiliserai sa bouche pour les exprimer. Et une fois qu'il les aura dites, elles devront s'accomplir. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. Ésaïe a dit, une vierge concevra. Ça règle la question, elle va concevoir. Ce que Dieu a dit, il le fait. Oh, faire connaître par ses prophètes toutes ses manifestations. Parce que ce sont ses attributs de ses pensées exprimées. Maintenant, c'était là, dans cette petite femme-là. Elle était un de ses attributs, voyez? Et là, il y avait le sacrificateur qui représentait la lumière. Il avait appris ça par la Bible. Il avait appris que Dieu était Dieu. Il avait appris que la sainteté était correcte. On lui avait appris qu'il y avait une loi de Dieu. Il avait appris ça à cause d'une conception intellectuelle. Et il était né dans la bonne lignée. C'était un Lévite, mais il ne le connaissait que par conception intellectuelle. Et quand la lumière de l'heure, vous voyez, il l'avait appris par ce qui était arrivé, pas par ce qui était en train d'arriver, ce qui était arrivé. Et quand il a vu ce qui était en train d'arriver, sa dénomination n'en disait rien. Donc, il n'en avait aucune représentation. Mais le Rédempteur était ici sur terre à ce moment-là pour racheter ses attributs de Dieu. Et elle l'a reçu. Elle ne l'a jamais mis en doute. Elle a dit, quand le Messie sera venu, il fera ceci. Et c'était réglé. Et elle l'avait vu s'accomplir. Alors, il a dit, je suis le Messie. Donc, c'était réglé. Plus de questions. Elle est simplement partie dire à tous les autres, venez voir qui j'ai trouvé. Ces processus nous rendent purs, un temple pour son lieu d'habitation, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit par le feu. C'est ce qui fait la purification de ce temple. Donc, comme la vieille structure du monde n'a pas été détruite par les eaux quand elle a été lavée, la structure de la planète, la vieille structure, toute la poussière, tout ce que Dieu a mis sur terre, ça n'a pas été détruit quand le premier monde a été détruit. Et la Bible dit qu'il a été détruit. Mais ça n'a pas détruit la structure. Ça n'a fait que détruire le péché et les pécheurs qui étaient dessus. La charpente est restée. Mais vous voyez, de même que la justification, comme vous les baptistes et les méthodistes voulez le croire, rien que la justification, croire, être baptisé, ça ne suffit pas. Vous allez vous retrouver bien vite dans les choses du monde à nouveau. Vous vous couperez les cheveux, vous porterez des shorts et tout le reste. Vous voyez, il ne s'est encore rien passé. Vous avez seulement regardé en arrière et vous avez vu que vous aviez mal agi. Qu'est-ce que la justification a fait au monde? Ça ne lui a absolument rien fait. Ça a recommencé tout de suite. Autant de péchés qu'il y en avait toujours eu. C'est comme ça qu'un homme fait et ne va pas plus loin que ça. C'est comme ça que le grand évangéliste Billy Graham devrait le voir. Il disait, j'y vais et 30 000 se convertissent. Je retourne un an après et il n'y en a même pas 30. Ils ne sont pas allés plus loin que ça. Voyez? Et c'est sûr, ils se repentent. Je crois qu'ils se repentent. La plupart d'entre eux, ou quelques-uns d'entre eux au moins. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. On en a la preuve là. Bon, donc la charpente de l'ancien monde n'a pas été détruite par l'eau. Le monde a seulement été lavé. C'est comme ça qu'il a eu son baptême. Il a été baptisé. De même, la charpente restera, même s'il est détruit par le feu. Celui-ci ne détruit pas la terre, vous voyez. Il ne détruit que le péché qui est dessus. Remarquez ici, certains d'entre vous, les spécialistes de la Bible, et en particulier le docteur Dale qui me regarde. Remarquez, dans Pierre au chapitre 2, de Pierre, là, au chapitre 3 plutôt, il utilise pour le mot « monde » le mot grec « cosmos », qui veut dire « l'ordre du monde ». La terre passera, les éléments embrasés se dissoudront, voyez. Ça ne veut pas dire que la terre, la planète passera. Mais le monde, cosmos, la politique, les pécheurs, les systèmes, le péché, la maladie, les germes, tout ce qui est faux, ça passera. Tout ce qui une fois Dieu a ébranlé les cieux, mais cette fois-ci, il a dit qu'il ébranlerait la terre, les cieux et la terre. Il ébranla la terre, plutôt, et cette fois-ci, il ébranlera les cieux, voyez? Car nous recevons un royaume inébranlable. C'est un royaume éternel. Regardez bien comment il l'aborde. Remarquez ici, Pierre dit, « Et embrasés, ils se dissoudront, et les œuvres qu'elles renferment seront consumées. » Pas la planète, les œuvres qu'elles renferment. Les œuvres des hommes, tous leurs politiciens avec leurs machinations, et toutes leurs dénominations, et leurs machinations humaines, tout ça, ça partira avec, quand ça brûlera. Et les cieux passeront avec fracas. Vous avez remarqué, là, les cieux passeront avec fracas. Écoutez, la terre entière sera en feu, et ça enflammera les gaz qui sont dans la terre, et ça les fera exploser. Tout à fait. Parlez, la Bible dit ici, Pierre a dit, et les cieux passeront, et la terre avec fracas. Elle sera secouée d'une de ces explosions. Oh là là, puisque ça doit tuer toutes les maladies, tous les chardons, toutes les épines. Tout ce qui doit être fait, le feu le consumera. Et souvenez-vous, ce n'est pas seulement un feu littéral, c'est aussi un feu saint, vous voyez, qui enlèvera Satan et tous les siens, tous les démons, les deux, le ciel et la terre. Amen, passeront. Ça tuera tous les germes, tous les insectes, toute vie naturelle sur elle et autour. Même l'H2O, l'eau, explosera. Pensez-y. Parlez-moi d'un fracas. Vous pensez que ce petit peu de bruit ici à Tucson, c'était quelque chose. Quand il a ouvert les ciseaux, ce qui avait secoué toute la région et qui avait fait parler, attendez que cette terre reçoive son baptême. Vous savez, quand un homme reçoit le baptême de feu, il y a beaucoup de bruit là autour. Ils pensent que c'est une honte d'entendre les gens hurler et crier comme ça. Attendez seulement que cette terre reçoive son baptême. Oui, ça la fera expliquer, exploser. L'H2O, l'eau, car la Bible dit ici dans Apocalypse 21, et la mer n'était plus. Ça la fera exploser. Ça changera toute la surface de la terre au complet. Elle va éclater et voler en morceaux. Tout l'extérieur, la croûte, et des centaines de pieds en dessous, ça sera tout simplement démoli au complet. Les atmosphères, les gaz qui sont dans la terre maintenant, où ils trouvent ces missiles et qui ne peuvent pas traverser ça, dans cette grande sphère là-haut, très haut, dans un genre de sphère où il y a toutes sortes de gaz qu'ils disent, et ça, ça va exploser. La sainte colère de Dieu s'abattra dessus, vous voyez, et la purifiera. Elle changera la surface au complet. Maintenant, beaucoup d'entre vous qui voulez noter ce mot, le mot grec « passé », ça vient du mot « j'ai dû aller le trouver ». Je pensais, comment ça, ce monde va passer et pourtant, on va vivre dessus? Mais si vous remarquez, pour certains d'entre vous qui voulez le noter, je vais vous l'appeler. Je ne pourrais pas le prononcer. P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A. Je ne sais pas comment ça se prononce. Maintenant, par ce moyen-là, comme je disais, quand je reçois, l'inspiration me vient pour quelque chose. alors je vais chercher le mot. Maintenant, là, je ne sais pas épeler le mot, ou je ne sais pas le prononcer. Mais malgré ça, le Seigneur m'a quand même donné un moyen. Je vais chercher ce que le mot veut dire, alors. Je l'ai, voyez? Alors je l'ai, de nouveau, voyez? Les cieux et la terre passeront. Maintenant, ce mot veut dire passer d'une forme à une autre. Ça ne veut pas dire anéantissement. C'est-à-dire le sens que le mot anglais pour passer lui donnerait, d'être anéanti. Mais le mot hébreu, ou le mot grec ici, ne veut pas dire passer. Il veut dire de passer d'une chose à une autre. Regardez, mais de passer d'un état, c'est ce que ça dit, à un autre. Maintenant, remarquez, Paul l'a utilisé, si vous voulez le lire là. Notez-le, vous pourrez le lire plus tard. Dans Tite 3:5, Paul utilise ce même mot en parlant de la régénération de l'homme, que l'homme est passé d'un pécheur à un saint, pas complètement anéanti. Quand un homme est changé, il n'est pas anéanti, mais il est une personne changée. Il a été changé de ce qu'il était à ce qu'il est, pas anéanti. Jésus a utilisé le même mot dans Matthieu 19:28. Pas 28:19 là, mais dans 19:28. Il leur a dit, « Vous serez assis avec moi dans le royaume de mon Père. » Régénéré, vous voyez, changé, quand vous serez changé. Il a utilisé le même mot. Et il a utilisé le même mot quand il a dit à l'ânon, qu'il a dit, « Détachez l'ânon et laissez-le aller. » Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare. « Déliez-le, changez-le. » Il était attaché, laissez-le aller. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre sera déliée de l'emprise de Satan. Elle sera déliée de la politique. Elle sera déliée des systèmes religieux des dénominations, afin d'être utilisée pour le royaume de Dieu, pour qu'il soit établi ici sur terre. Mais tant que c'est entre les mains de Satan, la politique, Satan, celui qui gouverne la terre, il la possède, elle lui appartenait, mais maintenant, Christ l'a rachetée. Autrefois, j'étais sa propriété, mais plus maintenant. Autrefois, cette petite femme était sa propriété, mais plus maintenant. Vous voyez, il est venu en faire lâcher l'emprise. Il a fait lâcher l'emprise du péché, de Satan sur ma vie, sur votre vie. Et maintenant, nous ne sommes pas à lui. M'avez-vous souvent entendu dire en prière, « Enlève tes mains de la propriété de Dieu. » Voyez, amen. Ayez la foi pour revendiquer ce qui est à vous. Ce sont vos droits. Enlève tes mains d'elle. Enlève tes mains de lui. Vous voyez, la foi le fera. Oh là là. Pas l'anéantir, mais seulement, enlève tes mains de là. Le lâcher, le laisser aller, le faire passer. Ça change. La terre va changer. La politique va changer. Les religions vont changer. Les dénominations passeront. La politique passera. Le royaume de Dieu sera établi. On lit Jean dans Apocalypse 6:14, vous voyez. Il se retira comme un livre. La Bible dit Jean a dit, « Je vis le ciel et la terre se retirer comme un livre. » Jean, Apocalypse 6:14. Jésus a dit, « Les cieux et la terre passeront. » Ou autrement dit, « Les cieux et la terre seront changés. » Vous voyez, il a encore utilisé le même mot là. Non, pas anéanti. En effet, plus tard, dans Apocalypse 21:2-24, il a vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu et se poser sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'elle sera anéantie. Les systèmes seront changés. Daniel a vu la même chose. Une pierre a frappé le monde. Elle s'est détachée sans le secours d'aucune main. Et toute la statue des systèmes a été mise en pièces et est devenue comme de la balle sur une aire de battage en été. Et le vent l'a emportée. Et la pierre elle-même a grandi pour devenir une grande montagne qui a recouvert la terre. Remarquez bien cette montagne maintenant, dans pas longtemps. Cette montagne a recouvert la terre. Également, on voit ici, également dans l'Apocalypse, là, il est dit, « Les rois de la nouvelle terre y apporteront leur honneur et leur gloire. » Dans la terre, il y a la nouvelle Jérusalem et sur cette terre. Vous voyez, elle est seulement changée. Vous êtes le même homme en stature que ce que vous étiez quand Dieu vous a appelé. la même femme. Mais vous voyez, ce que ça a fait, ça a été une régénération. L'ancienne vie est passée, l'ancien désir est passé. Alors qu'avant, vous aimiez boire et jurer, et faire des histoires, et vous énerver, et courailler, et l'immoralité. Cette chose-là, elle est morte, voilà tout, vous voyez? Mais maintenant, vous êtes utilisé. À l'époque, vous étiez l'instrument de Satan. Maintenant, vous êtes racheté. Et ce sera la même chose pour le monde. Il sera racheté. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout comme vous, vous êtes une nouvelle créature. Et le mot grec, là, tout le monde le sait, il dit, vous êtes une nouvelle création. Amen. Une nouvelle création dans le même vieux temple. Alléluia. Remarquez bien ce qui se passe ici, maintenant. C'est glorieux. Très bien. Maintenant, nous voyons que sur cette terre, il y aura les rois de la terre. Et aussi dans Matthieu 5, 5, Jésus a dit, « Les débonnaires hériteront la terre. » Ce n'est pas qu'on va avoir une autre terre. Ce sera simplement la même terre. J'essaye de vous faire voir le plan de la rédemption, d'abord, quitte à ne rien apporter d'autre, vous voyez. Le baptême de feu, là-dessus, c'est seulement pour la purifier et en faire un endroit propre à être habité par ses débonnaires. Voyez, oh, comme il nous a fait, à nous, sa création, pour pouvoir y vivre. Avant de pouvoir y entrer, il a dû nous donner le baptême de feu. Alors le Saint-Esprit entre en nous pour y vivre, le baptême de feu. Alors, quand vous recevez ce baptême de feu, alors le Saint-Esprit peut entrer. Qu'est-ce? Ce qu'il fait, c'est qu'il brûle tout ce qui est contraire à la parole pour l'enlever de vous. Voyez? Il ne croira rien d'autre que la parole, parce qu'il est la parole. Voyez? Voyez, voyez. Maintenant, c'est de ça qu'on parlait l'autre jour. La preuve qu'on a le Saint-Esprit. Voyez, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole. Pas un système, mais avoir une compréhension claire. Comment savoir que la parole est claire, qu'on la comprend? Regardez-la se confirmer. Vous dites, eh bien, je vois ceci le faire, et cela. Oh oui, les mauvaises herbes vivent de la même façon. Voyez, mais ce doit être la parole entière. Pour être l'épouse, vous devez être une partie de lui. Il est la parole, voyez? Et quelle partie de lui est-ce que c'est? La parole qui est promise pour aujourd'hui quand il appelle son épouse. Être une partie de ça. Vous saisissez? Maintenant, ne perdez pas ça, maintenant. Remarquez. Et l'on fait un endroit propre à y vivre pour l'éternité. Remarquez, ça ne se rapporte toujours pas à ce règne du millénium, les mille ans, ce n'est pas la nouvelle terre. Vous voyez, le règne du millénium est un règne différent. C'est là où nous allons, le millénium, mais ce n'est pas la nouvelle terre et le nouveau ciel. Non, non, ça c'est seulement un endroit de repos, vous voyez, une période de repos, pas du tout les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En effet, vous voyez, dans le millénium, on a des choses qui ne pourraient pas aller là-dedans. C'est un type de l'ancien septième jour de l'Éden, le septième jour, après qu'il a fait le monde. Le septième jour, il s'est reposé en Éden. Et le millénium, vous voyez, le monde a maintenant presque 6000 ans. Voyez, et tous les 2000 ans, il a eu une destruction. Voyez, le premier 2000, le déluge est arrivé. Et il l'a baptisé avec quoi? De l'eau. Le 2000 d'après, Jésus est venu le sanctifier et le revendiquer. Il a fait couler son sang dessus. Il se l'est approprié. Très bien, je reviendrai. Oui, là, comme roi avec sa reine. Et le deuxième 2000 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il vient donner sa période de repos. Et là, il la brûle et la revendique pour les siens. Il remet les siens dessus. Et remarquez, pas le monde parfait, ce millénium, c'est un type du septième jour. Ensuite vient le jugement du trône blanc. Vous voyez, on a encore le jugement. Pendant le millénium, on est encore dans le temps. C'est un jour, mille ans, c'est un élément de temps. Pas, ne confondez pas ça avec la nouvelle terre, là, parce que ce n'est pas ça. Vous allez peut-être me dire ceci. Là, il me semble que quelqu'un pourrait me dire ceci. Là, frère Branham, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous avez épuisé vos sept au complet. Où est-ce que vous allez faire maintenant? Et vous êtes un tenant des dispensations. Et c'est vrai. Je crois que Dieu en est un aussi. Notez, remarquez, vous avez épuisé les types des dispensations. En effet, si vous voulez mettre quelque chose après ce septième jour, comment est-ce que vous allez le faire? Vous allez où maintenant? Très bien. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Vous voyez? Voyez? Non, je n'ai pas encore épuisé les dispensations. J'ai un autre passage de l'Écriture ici. Et souvenez-vous, elle doit s'accomplir entièrement, dans tous ses détails. Voyez? Maintenant vous dites, Frère Branham, vous essayez de mettre quelque chose là-bas, très loin, au-delà de ce septième jour, ce sabbat du septième jour. Comme Dieu a fait la terre, qu'il a travaillé six jours, et qu'il s'est reposé le septième, c'était seulement un type du temps. Le temps. Mais je viens de dire ici que nous devenons éternels. Alors, où est votre type maintenant? Vous dites que vous êtes un typologue. Alors vous avez épuisé tous les types maintenant. Oh non, certainement pas. Voyons voir si c'est le cas. Prenons le Lévitique, au chapitre 23 du Lévitique. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez dans le Lévitique, là où on était dimanche passé, ou le dernier, c'est ça qui m'a donné l'idée, ici même. Le chapitre 23 du Lévitique, au verset 26. Maintenant, souvenez-vous, il y a sept jours de fête. La fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête de la gerbe agitée, là, tout ça. Il y a sept grands jours de fête, qui étaient seulement un type des sept âges de l'Église. Et vous vous rappelez combien il y avait de sabbats entre chacune d'elles? Vous voyez, sept sabbats entre la Pentecôte et les trompettes, c'est-à-dire sept âges de l'Église. Et il y avait sept jours de fête qui représentent les sept âges de l'Église. Continuez à suivre vos nombres. Vous dites, bon, là, Frère Branham, il n'y en a plus. Vous les avez, vos sept. Très bien, prenons la dernière fête, qui est la fête des tabernacles. Maintenant, remarquez ici, au verset 36. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation. Il y a une autre époque sainte qui vient, une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Là, on a un huitième jour. Or, il n'y a que sept jours, mais ici, on parle du huitième jour, une sainte convocation, convocation. Remarquez, vous n'y travaillerez pas. Le huitième jour, ou quoi? On retourne au premier jour. Eh bien, il s'agit de l'éternité, qui tourne et tourne sans s'arrêter. Amen. Vous le voyez? Remarquez, c'était aussi ce huitième jour, le dernier jour, le jour de la fête des tabernacles. Remarquez qu'après ça, après le dernier jour de fête, après le dernier âge de l'Église, après les derniers sept jours au complet sur terre, après le millénium, c'est là que cette sainte convocation a lieu. Souvenez-vous, ici, c'est la fête des tabernacles, des lieux de rassemblement. Amen. Là où, comme dit la Bible, dans le millénium, ils bâtiront des maisons. Ils habiteront, mais sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous préparer la place. Elle est construite. Nous n'avons rien à voir avec la construction de ça. Amen. Éternel. Oh, j'aime vraiment ce mot-là. Oh là là. Une sainte convocation, le huitième jour. Et il n'y a que sept jours. Ensuite, le huitième jour, ça revient de nouveau au premier jour. Ça retourne tout droit au premier jour. Le huitième jour est une sainte convocation. Remarquez, sept jours qui ne regardent que l'ancienne création, le temps du monde. Sept jours, c'est le millénium, le jour du repos. Comme Dieu a travaillé six jours et qu'il s'est reposé le septième, l'Église travaille six jours et se repose le septième. Mais on est encore dans l'élément temps. Je ne parle pas de ce qui est éternel. Mais vous voyez, huit jours, ça n'existe pas. On retourne de nouveau au premier jour. Vous voyez, le premier jour. Le sabbat parle de l'ancienne loi qui devait disparaître. Observez le sabbat qui a disparu, ou comme je l'ai dit, s'est changé en autre chose. Il n'a pas disparu, il a seulement changé pour ne plus être l'ancienne loi, d'observer un certain jour de la semaine. Dans Ésaïe, chapitre 19, il est dit, 28, 19, je crois, il est dit, c'est précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, retenez ce qui est bon, car c'est par des lèvres balbutiantes et d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos. Voyez, c'est dans la vie que vous entrez, pas dans l'observation d'un jour ou d'une ombre. Paul a dit, là, dans Hébreux, au chapitre 4, « Vous observez des jours et des ombres, et des choses comme ça. J'ai peur de votre expérience. » Vous voyez, on n'entre pas dans des jours et des ordres particuliers. Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle, pas à des jours et des époques. Vous êtes entré dans l'éternité. C'est la sainte convocation plutôt. 7 jours, remarquez, qui vont passer, ou, ce que j'ai dit, c'est qu'ils vont se changer en autre chose. 8 jours, là, il est question d'une nouvelle création, voyez, pas d'une ancienne création. 8 jours, c'est une nouvelle création. En effet, c'est le 8e jour que notre Seigneur est ressuscité des morts. Voilà l'autre convocation que vous avez, la sainteté, sans considérer les sabbats du tout, ou la fête des tabernacles, la fête de ceci, et la fête de la Pentecôte. Jésus est ressuscité des morts pour notre justification le 8e jour. Après les 7 sabbats, ou 7 jours, 7 âges de l'Église, Jésus est ressuscité des morts. Le 8e jour, qui est une sainte convocation, vous voyez, qui est le 1er jour. Vous voyez, vous avez fini de traverser le temps et vous êtes retourné dans l'éternité. Pas d'observer des jours et d'observer des sabbats et des nouvelles lunes et des choses comme ça. Mais est passé. Vous avez changé de forme. Pas anéanti. Gloire. Mais passé de la mort à la vie éternelle. Oh, ce que la Bible nous enseigne. Vous voyez, passer de l'un à l'autre. Très bien, passé. L'ancien sabbat est passé. Jésus est ressuscité le 8e jour. C'était un jour solennel, saint. Et ce n'était pas un jour. En effet, le jour, le temps, c'était terminé. C'est devenu l'éternité. Vous voyez, c'est revenu tout droit au 1er jour. Voyez, l'éternité, c'est comme un anneau. Vous ne pouvez pas y trouver d'angle. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où ça s'arrête dans un cercle parfait. Vous continuez toujours. Peu m'importe jusqu'où vous allez, vous continuez. Vous pouvez commencer à tourner comme ça, traverser le plancher, traverser la terre, aller au-delà de la terre. Vous continuez. Tout ce qui a été créé ici-bas, c'est perverti, non pas créé par Satan. Ça s'en ira quand la grande cloche d'or retentira et qu'une trompette sonnera. Et là-bas au commencement, là où le poteau d'attache a été fait en Éden, quand l'homme est venu sur terre et qu'il est tombé, un petit agneau a versé son sang. Ça parlait du grand agneau qui viendrait verser son sang. Le calvaire a dressé la croix qui a fait le lien pour l'Ancien Testament, pour ceux qui justifiés l'attendaient. Et dans cette nouvelle dispensation, à la venue du Seigneur, à la nouvelle terre, la corde de salut, le sang, la puissance rachetée dont je parle, qui par le même système a racheté les deux, l'homme et la terre, remontera tout droit dans l'éternité. Et l'étang de feu consumera tout ce qui est impie et qui n'y est pas prédestiné. Remarquez, c'est le 8e jour que Jésus est ressuscité pour notre justification. Le roi éternel, avec le royaume éternel, dans lequel être baptisé pour la vie éternelle. Pas 7 jours, ça n'avait rien à voir avec aucun des jours. Il s'agit de quelque chose d'autre, d'éternel qui vient. Il s'agit d'un temps éternel, le monde dont je parle. Et remarquez, après 50 jours ou 7 sabbats après, il y a eu encore une autre sainte convocation. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le 7e jour, ou le 8e jour plutôt, le 8e jour, est descendu le 8e jour. C'était 7 sabbats plus tard, exactement après sa résurrection. Vous voyez, ce qui fait encore 7 fois, pour revenir encore tout droit au 1er jour de la semaine. Exactement, voyez? Là voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. C'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu, avec la vie éternelle, avec les prédestinés. qui n'ont jamais commencé. Ça n'a pas du tout commencé un certain jour. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. Amen. Jésus est simplement venu racheter ça. Mais vous étiez sauvé dès le commencement parce que vous aviez la vie éternelle pour commencer. Une truite ne peut pas être une orphie ou un têtard. Il se peut qu'elle soit dans la même eau que l'autre, mais dès le commencement, elle était une truite. Le filet l'a seulement attrapée, vous voyez, mais c'est ce qu'elle était dès le commencement. Voilà ce... Maintenant, on n'a pas épuisé les dispensations, n'est-ce pas? On est en plein dans l'Écriture. 50 jours après, c'est venu. Vous voyez, le 8 ne peut pas être compté dans la semaine. Vous voyez, on ne peut pas compter ça, 8 jours dans une semaine. Ce n'est pas possible, voyez-vous, parce qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine. Comptez ça comme vous voulez. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Vous voyez, vous en comptez 7, et puis vous devez revenir et recommencer. Vous en comptez 7, vous revenez et vous le reprenez. Voyez, et nous, on a vécu tous ces types ici. Seulement, quand vous en arrivez au 8e, vous entrez dans l'éternité. Vous ne venez pas par des lois et des rituels et des ordres. Vous venez par prédestination. Amen. Voilà une vraie sainte convocation. Voyez, et nous sommes à la fin du 7e âge de l'Église. L'âge de l'Église, l'âge de la Pentecôte. Vous le voyez? Nous entrons dans cette sainte convocation. Nous entrons dans cette éternité réelle, authentique, où l'Église est appelée, pas à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l'éternité avec le Roi éternel. Voyez, on n'a pas ça du tout, rien de tout ça, des jours et tout et des temps. Vous êtes passé dans l'éternité, d'où vous venez. Vous étiez là dès le départ, voyez. Si vous avez la vie éternelle, il n'y en a qu'une forme, c'est Dieu, et vous êtes un attribut exprimé. Voyez, si vous ne l'êtes pas, de toute façon, vous n'y serez pas. Nul homme ne peut venir à moi si mon Père ne l'a attiré. Voyez, ça passe, toutes les anciennes choses, mais ces choses-là, non. Donc il s'agit de l'éternité. Le Saint-Esprit est éternel. Alors, vous êtes dans l'éternité, là où vous avez toujours été, mais vous venez seulement de reconnaître ce qui s'est passé. Vous voyez, vous avez été fait dans un but éternel, parce que vous étiez là la manifestation d'un attribut qui était en Dieu, qui a pensé à vous et vous a exprimé. Et il a fait la terre pour vous en tirer et pour faire de vous un être humain. Et le péché est venu pervertir sa voie. Vous êtes venu quand même, mais vous étiez perdu avec le monde. Alors, il est venu vous racheter, l'attribut exprimé. Et il rachète aussi cette terre de la même manière. Ensuite, son plan continue à avancer. Voyez? Oh, alléluia! Oh, ça me fait tellement de bien, rien que de penser à ce qui nous attend. Maintenant, dans Éphésiens 1:10, c'est appelé, si vous prenez ça en note, là, Éphésiens 1:10, c'est appelé, pas une dispensation, pas le septième jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là vous entrez dans l'éternité. Une fois le septième âge de l'Église terminé, et il l'est, l'âge de Luther est terminé, l'âge méthodiste est terminé, l'âge de la Pentecôte est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus de 7, plus de 3, plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité, où il n'y a pas de temps, avec les nombres et les temps et tout. Amen. Oh là là. Vous le voyez maintenant? Ou, après que le temps est accompli, tout le péché est parti, enlevé, dans le millénium, au jugement du grand trône blanc, un type, par le Saint-Esprit, après que le monde est en feu et qu'il est baptisé, de son baptême de saint feu du ciel, tout le péché est parti, tous les germes sont partis, tous les démons sont partis, tous les tentations sont parties, tout le mal est parti. Un type, maintenant. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Il peut siéger sur la terre, vous voyez? Parce que tout le péché est parti. C'est la même chose qu'il fait quand il vous donne le baptême du Saint-Esprit avec le feu. Il peut venir habiter avec vous, et nous pouvons être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, parce que nous sommes déjà en lui. Pas nous serons, nous sommes maintenant assis en Christ Jésus. Comment est-ce qu'on entre là-dedans? Par un seul baptême du Saint-Esprit. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en Christ, et nous y sommes maintenant. Pas serons en Christ, nous y sommes. C'est lui le grand roi spirituel sur l'esprit qui est en nous, parce que nous étions en lui au commencement. Vous voyez, Dieu, au commencement, quand il a pensé à vous et qu'il a pensé à d'autres comme ça, qu'il a pensé à devenir lui-même tangible, c'était ses pensées, voyez. Alors il a exprimé ses pensées par la parole. Il a dit, qu'il y ait, et il y eut, qu'il y ait, et il y eut. Ensuite, après un moment, il a continué à dire, qu'il y ait, jusqu'à ce qu'un jour les gens disent, que Dieu ne parle pas. Il a dit, maintenant, je leur parlerai à travers un prophète. Voyez, dorénavant, je leur parlerai à travers un prophète. Et le prophète a dit, il viendra, il y aura, et ce fut, et ce fut, et ce fut, et ce fut. Vous voyez, exactement comme ça. Vous comprenez maintenant? La plénitude du temps est venue, après que le temps a été accompli. Le péché est parti, après le baptême du monde, après que le baptême du monde en ait fait un lieu propre. Pas de maladie, pas de germes, pas d'épines, pas de chardons, pas de mort, pas de chagrin, pas de cœur brisé, pas de vieillesse, rien qui représente la mort, rien de mal, tout comme il faut, rien de naturel, éternel. Alors son attribut est exprimé. Parce qu'il était là, d'abord, au départ. C'est ça qu'il pensait. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Il a mis Adam et Ève ici sur terre et il a dit, « Maintenant, multipliez et remplissez la terre. » Leur corps était préparé là pour que vous mangiez, pour constituer votre corps. C'était sa manière de le faire. Mais le péché est venu interrompre son plan. Ça continue à tourner, quand même, le temps continue. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Dieu est descendu et s'est exprimé sous la forme d'un homme, d'un être humain. Il a donné sa vie au lieu de rester ici. C'était lui, le roi. Seulement, il s'est donné pour racheter les autres. Vous saisissez? Et quand tout est terminé, alors c'est ramené tout droit et le but de Dieu est accompli. Voilà de nouveau le roi éternel avec ses sujets éternels exprimés dans la chair humaine, exactement comme il l'avait. Le péché est enlevé, le diable est parti. Là, c'est complètement fini. Qu'est-ce qui le fera? Cette terre ne pourrait pas être un endroit où le ciel puisse siéger maintenant. Regardez ça, le péché, elle va devoir être purifiée. Aucun homme, personne, aucune femme, garçon, fille, peu m'importe qui c'est, n'est apte à aller en chair, ni même à se dire chrétien, sans être rempli du Saint-Esprit. Vous n'avez pas droit au souper du Seigneur, ni à la communion, au lavage des pieds, ni rien, tant que vous n'avez pas été purifié par le saint feu de Dieu. Aucun homme n'a le droit de prêcher, tant que, comme Moïse, vous ne l'avez pas rencontré là, sur ce terrain sacré, cette colonne de feu qui se tient là, alors il sait où il en est. Voyez? Remarquez comment on va. Après le baptême de feu du monde, tous les germes sont partis. Alors, ça en fait un lieu propre à ce que le ciel habite ici sur terre. Un type là, d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Passer de ceci, souillé comme l'était la petite femme, à être l'attribut de Dieu exprimé. Maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Pas nous serons. Nous sommes les attributs de la pensée de Dieu. Voyez? Là, vous dites, « Eh bien, regardez ce sacrificateur. Est-ce qu'il n'était pas un fils de Dieu? » Ça a prouvé qu'il ne l'était pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu reconnaître? Est-ce qu'il disait, « Je crois la Bible? » Bien sûr. Mais il ne pouvait pas reconnaître la parole de l'heure exprimée. Tout ce qu'il avait, c'est une instruction intellectuelle d'un groupe qui avait été là avant lui. Et c'est la même chose aujourd'hui. Voyez? Je sais que c'est fort, mais c'est la vérité. La parole était là, exactement telle qu'elle avait été prononcée pour ce jour-là. Et lui, pourtant, il était un érudit. Pourtant, il était quelqu'un de connu. Seulement, il n'a pas pu la reconnaître. Pourquoi? Peu importe combien il était érudit et tout ça, il n'avait toujours pas la représentation de la prédestination. Voyez? Il n'y a que celui qui est prédestiné. Ce sera le seul qui le fera. Ça ne peut pas être autrement. Et vous pouvez seulement le faire. En effet, écoutez, ça prouve la prédestination. Car si vous avez la vie éternelle, il faut que vous ayez été une partie de Dieu tout le temps. Parce qu'il est le seul qui est éternel. Vous le voyez? Oh là là! Pensez-y. Maintenant, regardez ce qui arrive pendant le glorieux millénium. Plus du tout de péché. Le millénium est commencé. C'est maintenant le moment pour le Saint-Esprit de prendre sa place. Exactement comme il le fait en nous. Passer de la mort à la vie. Nous habitons dans les lieux célestes en Christ, dans sa glorieuse présence. Même la mort physique sera passée alors. Tout comme la mort spirituelle est passée maintenant. Il n'existe pas de mort spirituelle maintenant pour un saint de Dieu baptisé. Il vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Toute l'Écriture, elle doit s'accomplir. Voyez, vous ne pouvez pas mourir. Vous avez la vie éternelle. Tout ce qu'il y a, c'est que le Rédempteur vous l'a fait reconnaître. Et vous l'avez toujours été, et c'est la raison pour laquelle vous voyez le jour où vous vivez. Combien le voient? Levez la main. Voyez? Merci. Voyez? Le jour où nous vivons, vous le reconnaissez. Maintenant, les méthodistes ont dit, quand on crie, on l'a. Beaucoup d'entre eux ont crié et ne l'avaient pas. La Pentecôte a dit, quand on parle en langue, on l'a. Il y en a beaucoup qui parlent en langue sans la voir. Regardez comment, toutes les formes que ces pharisiens avaient, mais quand la parole a été manifestée, ils ne l'ont pas reconnue. Voyez? Voyez? Et si vous êtes l'épouse est une partie du mari. Et si, le seul endroit où vous le reconnaîtrez jamais, c'est de reconnaître quelle partie de ce mari, cette parole, vous êtes. Sinon, vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes l'épouse. Combien voient ça? Voyez? Voyez? Vous devez reconnaître votre position. Vous ne pouvez pas reconnaître celle de quelqu'un d'autre. Et si Moïse était venu avec le message de Noé? Et Noé en était une partie. Mais ça n'aurait pas marché. Et si Jésus était venu avec le message de Moïse? Ça n'aurait pas marché. Vous voyez, c'était un autre âge, c'était une autre prophétie, une autre partie de la parole devait s'accomplir là. Ils étaient un autre jour de la semaine. Pas, on ne peut pas faire le travail du mardi, le mercredi, et le mercredi doit être fait le mercredi. Voyez, le samedi, ce doit être le travail du samedi. Voyez, et eux, ils reconnaissaient, « Oh, Moïse, nous avons Moïse. » Il a dit, « Si vous aviez connu Moïse, vous me connaîtriez, car c'est lui qui a parlé de moi. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. » Vous saisissez l'idée? Oh là là! Voyez? Puis, Jésus a dit dans Jean 14, « Quand lui, le Saint-Esprit, sera venu, il vous rappellera ces choses. » Vous voyez? Vous montrera dans quel jour vous vivez. Encore une autre chose par laquelle vous le reconnaîtrez, c'est qu'il vous montrera les choses à venir. Vous voyez? Vous voyez? De nouveau le côté prophétique, tout à fait, quand il sera venu. Vous voyez? Dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, ce ne sera plus jamais noirci. Quand cette nouvelle terre viendra, le diable sera lié. Satan, il est encore en liberté maintenant. Il est accusateur. Mais dans la nouvelle terre, il sera lié et jeté dans l'étang de feu, dans ce feu saint. Alors, dans cette nouvelle terre, examinons-la quelques instants maintenant. Dans cette nouvelle terre, les cieux ne seront plus jamais noirs. Non, ça vient de la malédiction, vous voyez? Plus jamais noir de nuages menaçants. Les vents ne la balayeront plus jamais comme ça. Non, elle ne va plus jamais arracher les arbres et arracher les maisons et renverser les choses. Les éclairs et la colère ne jailliront plus jamais de Satan là-bas. Pour tuer un homme qui s'en va sur le chemin, ou pour brûler un bâtiment. Voyez? Non, plus jamais. Il n'y aura plus de typhons qui s'abattront, ni de tempêtes et de tornades qui arrachent les maisons et qui tuent des petits-enfants et tout. Non, non, il n'y en aura plus. Pour essayer de détruire, il n'y aura pas ça. Satan est chassé. J'aimerais qu'on ait le temps maintenant. Là, je saute des passages de l'Écriture pour qu'on ne soit pas trop en retard. Je dois prier pour les malades. Les cieux et la terre se sont rencontrés. Dieu et l'homme sont réconciliés. Un Éden rétabli a commencé. Vous voyez, toute la malédiction est partie. tout comme toute la malédiction du péché s'en va quand le Saint-Esprit vous accepte. Vous voyez, ce n'est pas vous qui l'acceptez, c'est lui qui vous accepte, vous voyez, parce que c'est l'attribut de Dieu. Vous voyez, si c'est le Saint-Esprit, ça veut dire l'Esprit de Dieu, et c'est l'attribut, la pensée de Dieu, qui vous a accepté parce que vous étiez prédestiné dans ce but. Voyez, pourtant vous êtes né dans le péché, mais Dieu avait cet attribut, et là, vous vous êtes exprimé ici sur terre, et il descend vous prendre. Vous voyez, vous êtes ici, votre place, c'est ici, voyez. Vous voyez, le péché a perdu son pouvoir. C'est vrai. Le désir du péché est sorti de votre cœur. Quand le Saint-Esprit entre, vous êtes une personne rétablie. Et puis, quand la terre est rétablie par la même chose, il ne peut plus y avoir de malédiction. Plus de tempête, plus de vent, plus de typhon. De typhon plutôt. Vous êtes réconcilié. L'homme et Dieu se sont rencontrés. La nouvelle terre sera... revêtira de nouveau sa beauté de l'Éden. La nouvelle terre s'étendra après son baptême de feu. Pensez seulement, elle va prendre feu et brûler. Les éléments embrasés se consumeront. Toutes les œuvres sur la terre brûleront. Toute l'eau explosera, elle s'enflammera, elle explosera entièrement, tout explosera. Il y aura des éruptions volcaniques, et la lave brûlante volera des milliers de milles en l'air. Tous les germes, le Saint-Esprit de Dieu nettoiera les moindres traces de tout le péché et tout. Tout le diable sera lié et jeté dans l'étang de feu, un feu dévorant, la colère du feu de Dieu. Il n'y aura plus jamais de bête qui sera là pour vous détruire. Quand vous vous promènerez sur le chemin, dans les jardins fleuris, il n'y aura pas de serpent là pour siffler à vos oreilles et vous mordre avec son venin empoisonné. Oh là là, ce sera merveilleux, n'est-ce pas? Écoutez, sur cette nouvelle terre, il n'y aura pas de petits monticules de gazon jauni comme tombe. Il n'y aura pas de ça là-bas. L'homme et Dieu se sont unis, l'épouse et l'époux. Les cieux et la terre se sont embrassés. Dieu est descendu habiter parmi les hommes. Son tabernacle est avec eux. Il n'y aura plus de péché, plus de peine. Plus jamais une larme qui tombe de la joue d'une mère à cause de son bébé. Amen. Il n'y aura pas de ça sur ce nouveau sol. Non, il est racheté. Il lui appartient. Et pour les siens qui en ont été rachetés. Voyez? Et regardez, vous êtes une partie de ce sol. Pas vrai? Et quand il vous a racheté, il a racheté la terre par la même chose. Et vous êtes de nouveau ensemble. Oh, comment est-ce que ça pourrait être plus clair? Voyez? Vous devez être racheté parce que vous en faites partie. Et si le sang n'a pas coulé sur vous, vous n'êtes pas encore racheté, vous n'êtes pas appelé. Ensuite, il la purifie. C'est la même chose qu'il fait par le feu. Même si le sang a coulé, elle doit encore être purifiée par le feu. C'est vrai, pour être une demeure pour Dieu. Dieu a déjà élu domicile, potentiellement. Le royaume de Dieu est sur la terre en ce moment, dans les cœurs de ses saints. Ce sont ses attributs qu'il a commencé au commencement. Maintenant, ses attributs sont rachetés. Qu'est-ce qu'il attend? De racheter la terre pour y placer ses attributs, pour accomplir exactement son plan prédestiné. Est-ce que vous le voyez? Remarquez, plus de tombes, plus de larmes versées, jamais plus d'effusion de sang. Elle ne sera plus jamais mouillée par une larme versée ou par du sang? Non. Il n'y aura plus de guerre? Non. Plus de nuages d'hiver, plus de neige glacée sur son sein, il ne s'en déposera plus jamais dessus. La chaleur du soleil ne brûlera jamais son gazon. Alléluia! Même le désert produira des roses. Ce vieux désert, plein de piquants, fleurira un jour comme une rose. Dieu l'a dit, quand elle sera rachetée, quand elle aura son baptême de feu. En ce moment, il y a toutes sortes de cactus et d'épineux et tout là-bas, mais il y a un baptême de feu qui l'attend. C'était pareil pour l'homme. Quand il avait encore de la haine, de la méchanceté, de l'hostilité en lui, quand le baptême de feu est venu, il a tout nettoyé. Plus de jalousie, plus rien, c'est absolument une demeure pour Dieu. Et souvenez-vous, c'est ça, sa délégation qui va le rencontrer là-bas. Amen. Oh, ce n'est pas juste un conte, c'est la vérité. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il a promis. C'est là que l'épouse va. Même le désert, il a dit, fleurira, deviendra une rose. Satan, le péché et les pécheurs ont disparu pour toujours. Tout est terminé, c'est fondu dans l'éternité. Et tout ce qui était perverti, ce grand archange qui avait été là un jour, Satan, qui avait fait tout ce mal, sera détruit. Vous vous souvenez, la Bible a dit, si cette âme ne veut pas faire ce qu'il a fait, dit de faire, il détruira même cette âme. Mais voyez-vous, il ne peut pas se détruire lui-même tout en restant Dieu. Donc, si cette âme est du monde, elle doit être détruite. Mais si elle est éternelle avec Dieu, elle n'a jamais eu de commencement, parce qu'elle est une partie de Dieu. Alors, elle ne peut jamais être détruite. Amen. Comme c'est beau, combien reconnaissant de ce que l'Église devrait voir ça. Les amis, tout ce que vous avez fait se trouve ici même. C'est ce que j'essaie de dire. J'en laisse de côté parce que je veux revenir là-dessus. Même ces choses-là, Satan, les pécheurs ont disparu pour l'éternité. Ils n'existeront plus jamais. Tout, vous voyez, Satan ne peut pas créer. Si c'était le cas, il serait Dieu. Voyez, il peut seulement pervertir ce qui a été créé. Et toute perversion va, tout ce qui est perverti va être supprimé. Et la mort, c'est la perversion de la vie. Et quand la perversion est terminée, il ne peut plus y avoir de mort. La vieillesse est un signe de mort. Et quand la vieillesse a disparu, la vie entre. Tous les signes de perversion et tout le reste ont disparu. Les épines et les chardons sont un signe du péché. La terre sera maudite avec eux. Elles seront supprimées. La maladie qui est venue par là, elle sera supprimée. La mort sera supprimée. Le sang répandu, ce sera supprimé. Plus rien ne viendra toucher ce gazon, si ce n'est la sainteté, les rachetés. Oh là là, oui, oh, je me sens tellement bien. Dieu et sa création et ses créatures de cette création sont rachetées par son propre sang, purifiées par son propre procédé de purification. Son procédé qui tue les germes, qui tue le péché. Comme quand on stérilise quelque chose, la meilleure stérilisation qu'on ait jamais eue, c'est le feu. On peut prendre n'importe quoi et le laver avec de l'eau savonneuse et tous ces produits chimiques dont il parle. Ça ne le débarrasse pas encore complètement, mais brûlez-le une fois. Et quand le saint feu de Dieu stérilisera la terre avec les produits chimiques, il aura enlevé son épouse, qui pourra entrer au ciel avec lui, pendant que tout ça se déroule, pour ensuite revenir sur terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le froid de l'hiver ne pourra pas lui faire de mal. La chaleur des étés ne pourra pas lui faire de mal. Les déserts fleuriront comme une rose. Il n'y a plus de péché ni de pécheurs. Dieu et ses créatures et sa création habitent ensemble en parfaite harmonie. Comme les cieux et la terre sont mari et femme, de même Christ et l'Église, elles se rencontrent tous dans un grand plan glorieux de la rédemption. Elles sont ramenées directement dans le sein de Dieu. Vous le voyez? Et dans la nouvelle terre, il y a une nouvelle ville. Oh là là! Écoutez bien maintenant. N'oubliez pas ceci. Dont Jésus a dit dans Jean 14 qu'il allait la préparer. Que votre cœur ne se trouble point. Quand il partira, j'ai une raison de partir. Vous avez cru en Dieu, il a dit, croyez aussi en moi. Ils ne pouvaient pas voir qu'il était Dieu. Il a dit, vous avez cru en Dieu, maintenant croyez en moi. Et je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs palais. Christ est là, occupé à la construction de cette nouvelle Jérusalem, maintenant. Maintenant, écoutez bien, restez tranquille, ne manquez pas ça. Christ est au ciel aujourd'hui, en train de préparer la nouvelle Jérusalem. Tout comme Dieu a créé la terre en 6 jours, qu'il a fait la terre en 6 jours ou en 6000 ans. Comme il l'a dit, vous ne devez pas ignorer, nous l'avons lu dans l'Écriture, 1000 ans, c'est un jour. Et Christ est parti et il prépare une place qui est en construction depuis des milliers d'années. Il prépare une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Remarquez, le Rédempteur et les rachetés. J'aimerais avoir le temps maintenant. J'ai noté ici Salomon qui cite cette jeune fille, l'épouse. Oh, on va devoir laisser ça de côté. Il se fait trop tard, vous voyez. J'y reviendrai. Donc il essaye de la prendre, mais elle est fiancée à un jeune berger. Certains ont probablement cru que c'est une chanson qu'il chantait. Oh non. Salomon était le trône hérité de David sur la terre. Mais il montrait que ce royaume devait disparaître. C'était un type de Christ, amoureux de l'épouse. Voyez, remarquez que Jésus a dit, Jean 14 maintenant, « Vais préparer une place. » Oh, à quoi est-ce qu'elle ressemblera? Oh, épouse, as-tu déjà pensé à quoi elle ressemblera? Elle est préparée et conçue par l'architecte divin. À quoi ressemblera cette ville? Maintenant, je vais en parler pendant quelques minutes. L'architecte divin l'a préparée, l'a conçue. Et regardez, il l'a conçue avec des mains tendres pour son épouse bien-aimée. À quoi est-ce qu'elle va ressembler? Pouvez-vous imaginer un homme qui s'y connaît, qui va prendre une épouse? Comment il construit et place chaque petite chose exactement selon ses goûts à elle, exactement comme elle, elle l'aime. Amen. Maintenant, l'architecte divin a conçu la nouvelle ville où il va vivre avec son épouse exactement selon ses goûts à elle. Pas étonnant que l'apôtre ait dit « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. » Essayons de voir si on peut sonder ça un instant pour voir à quoi ça va ressembler. L'architecte divin a conçu ceci pour ses bien-aimés. Voyez? Oh, quel endroit glorieux ce doit être quand la nature divine, un architecte divin, l'a conçu pour un attribut divin, prédestiné de façon divine par un Dieu divin qui est l'auteur de la vie divine. À quoi est-ce que cette ville va ressembler? Pensez-y. Rappelez-vous, ce n'est pas le ciel. Jean a dit, « Je la vis descendre du ciel. » Elle se trouvera sur terre. Voyez, ce n'est pas que cette terre va disparaître. Il s'agit d'une terre rachetée. Dieu n'a pas dit qu'il susciterait une nouvelle génération. Il va racheter celle qui est ici. Il ne va pas susciter une nouvelle génération. Il rachète celle qui est déjà ici. Il ne va pas faire un nouveau monde. C'est celui qui est ici même. Il va seulement le brûler complètement, le purifier, comme il l'a fait pour vous. Ses plans doivent demeurer pour toujours. Maintenant, regardez, ce sera, souvenez-vous, ce ne sera pas le ciel, elle descend du ciel. C'est un lieu d'habitation, un lieu où habiter, où il établira sa demeure. Comme c'était Jean sur l'île de Patmos, ici, dans Apocalypse 21, il l'a vu descendre. Jean a vu la ville descendre du ciel, comme une colombe, comme il l'a vu. Voici Dieu qui descend sur son tabernacle terrestre, Jésus, qui descend du ciel. Jésus a été baptisé, il est allé directement, quand il a rencontré le prophète. La parole vient au prophète, et il était la parole. Et le prophète était là, il reniait toute leur dénomination, tout. Et quand il a vu la parole est venue droit vers lui. Et le prophète a été tellement bouleversé qu'il a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi ?» Il a dit, « Laisse faire, car il nous convient, nous connaissons le message, d'accomplir tout ce qui est juste. Je suis le sacrifice, il doit être lavé. » Il l'a laissé faire. Quand il est sorti de l'eau, il a dit, « Je vis les cieux ouverts. » Le prophète l'a vu. Il a vu les cieux ouverts. Et voilà qu'est descendue du ciel la forme d'une colombe. Et une voix qui disait, « Ceci est ma partie de la terre que j'ai rachetée. Et de cette partie de la terre, je rachèterai le reste. Car il est ma parole manifestée. Et le monde entier, c'est par ma parole que je l'ai créée. » Hébreu 11. Et Satan l'a détenu pendant tout ce temps, mais je suis venu pour le racheter. Une certaine quantité de la terre a servi à former son corps, et je viens pour y habiter. Jean a dit, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et où est-ce qu'elle s'est installée? Exactement comme il l'avait fait là-bas, sur la terre. Jésus était une partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Et il est resté sur lui pour toujours. Il ne peut jamais le quitter. Il est toujours là. Lui et Dieu sont un. Il doit toujours y rester. Et donc Jean a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre comme une comète ou une colombe, descendre du ciel et s'établir sur une terre rachetée, entière. Pour quoi faire? Pour revendiquer tous les attributs pour lesquels il avait fait la terre. Tous les hommes qui étaient représentés dans l'éternité et toutes les femmes sont rachetées. Alors, elle a été récurée et brûlée par le feu. Jésus, dans ses tentations ardentes dans le désert, pendant 40 jours. Après ça, remarquez, c'était prêt pour son ministère. Alors, pensez-y, le Saint-Esprit qui descend sur terre, Jésus et ce sang sacré. Maintenant, regardez bien, et j'espère que je ne vais pas trop profond pour vous. Vous voyez? Le sang sacré qui a été créé par Dieu. Le sang, la vie, la création de Dieu. Jésus était le commencement de la création de Dieu. Oh, vous le voyez? Dieu qui a été fait création. Il était esprit. Et la Bible dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Comment est-ce qu'il a commencé? Dans le sein d'une femme. C'est-à-dire quoi? La femme n'est pas comme ces aveugles qui ne peuvent pas voir la semence du serpent ici même. Voyez, Ève a été mise ici sur la terre, et avant même que Satan l'ait touchée, ou quoi que ce soit d'autre, Dieu leur a dit, multipliez et remplissez la terre. C'est vrai, mais Satan entre ici. Et si c'était le fils d'Adam, alors où? Adam était un descendant direct de Dieu. Et vous pouvez seulement revêtir la nature de votre parent. Et quand vous naissez de nouveau, vous revêtez la nature de votre parent du ciel. Et votre parent du ciel est l'attribut de la parole, ou la parole est l'attribut de votre parent. Alors, comment pouvez-vous la renier pour une dénomination? Oh là là, j'espère que vous ne manquerez pas ceci. Je sais que c'est de Dieu. Jésus, le voici qui arrive, qui descend. Et là, il y avait Jésus, l'attribut de Dieu. Maintenant, la femme, elle, regardez bien. Dieu a dit, parce qu'ils ont fait cela, il a dit, je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. N'est-ce pas? Et la femme n'a pas de semence. Avez-vous déjà pensé à ça? Elle a un champ, pas une semence. Vous voyez, le serpent avait déjà placé là sa semence à lui. Donc, si la femme n'a pas de semence, il doit lui rester à avoir une semence. Vous voyez, à la suite de ce rapport sexuel venu de Satan, le serpent, qui n'était pas un reptile, il avait des jambes, c'est qu'il a perdu ses jambes. Il était le plus rusé, le seul animal qui puisse s'allier à la femme. La semence d'un animal ne peut pas le faire maintenant, ni rien d'autre. Ils ont essayé, ça ne marche pas. Vous voyez, la vie de la semence d'un mâle n'ira pas dans une femme, pas du tout. Mais c'est ce qu'il y avait de plus proche. Vous voyez, ils n'arrivent pas à trouver cette espèce qui est entre le chimpanzé et l'homme. Vous voyez, chacune, comme elles ont évolué, depuis les oiseaux et jusqu'aux singes et tout, jusqu'aux chimpanzés. Après, il y en a un qui est manquant, c'était le serpent, mais pas le serpent qu'on connaît. Toute la forme qu'il avait est perdue, parce qu'il a été maudit. Maintenant, Dieu n'a pas maudit Adam, il aurait pu faire la même chose, mais il a maudit la terre, des épines et des ronces. Il n'a pas maudit Ève, mais il a dit qu'Adam dominerait sur elle. Dorénavant, elle n'essaye plus de prêcher ni quoi que ce soit, c'est Adam qui domine sur elle. Tous les jours de ta vie, et dans la douleur, et c'est toi qui apporteras la vie sur la terre. Mais il a dit, je mettrai inimitié entre ta semence. Maintenant, elle n'avait pas de semence. Elle n'en avait jamais eu. Donc il fallait qu'elle reçoive une semence de quelque part. Dieu lui a donné une semence, pas par un rapport sexuel, mais par création. Ne pouvez-vous pas voir, Jean aveugle, que c'est ça la semence du serpent? Oh là là! Satan y est arrivé avant Adam. C'était ça la semence. Mais elle a reçu une semence. Qu'est-ce que c'était? Dieu lui-même! Il était le commencement de la création de Dieu. Maintenant, regardez quand Seth est né, ou Abel. C'était un homme juste de par son père. Seth, c'est la même chose. D'où est-ce que ce type méchant est venu? Meurtrier, menteur, vous voyez? Vous voyez d'où il est venu? Il fallait que ce soit une semence, parce qu'il était une semence. Caïn était un homme. Oh, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens aveugles? Le Dieu de ce monde les a aveuglés. Eh bien, ce n'est pas étonnant. Jésus a dit qu'aucun homme ne peut le voir. Vous voyez? Vous dites, pourquoi est-ce qu'il ne le voit pas? Une fois, Jésus a dit à son disciple, « Il vous a été donné de connaître le royaume de Dieu, mais pas à eux. » Et c'est la raison pour laquelle vous venez de 1500 000 carrés, vous voyez? Il vous a été donné de connaître le royaume. Écoutez, il y a des gens qui viennent jusque de l'Afrique du Sud et par là autour, en cette heure tardive où l'épouse est formée pour entrer dans le royaume. Je n'ai vraiment pas assez de temps. Remarquez, regardez bien. Maintenant, vous voyez? Maintenant, est-ce que vous pouvez voir la semence du serpent, là? Voir comment il l'a fait? C'est tout simplement parfait, vous voyez? Maintenant, il y en a qui ont dit, maintenant comme ce type l'autre jour à Tucson qui essayait, ah, peut-être qu'il écoutera cette bande. Mais si c'est le cas, mon cher, je voudrais vous dire quelque chose. Quand il disait, Ève a dit, voilà à quoi il se réfère, j'ai formé un fils avec l'aide de l'Éternel, ou un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais bien sûr, Dieu a une loi. Écoutez, prenez une semence et plantez-la par ici dans un champ où il y a du blé, et plantez-y des ronces. Le même soleil, la même pluie donnent la vie à cette semence. Dieu a une loi, et cette loi ne peut pas être violée. Peu m'importe si la femme la plus mauvaise de la ville et l'homme le plus mauvais, et sans être mariés, et tout, s'ils ont une liaison, et qu'ils vivent ensemble, et qu'ils mettent au monde un enfant, cet enfant viendrait forcément selon la loi de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, vous faites de Satan un créateur, et là, il serait un Dieu. Oh, comment peut-on être si aveugle? Vous voyez, la loi de Dieu, certainement. Si jamais vous avez un bébé, peu m'importe que ce soit Ésaü, Jacob, qui que ce soit, ou n'importe quelle personne de mauvaise réputation, même si c'est Judas, c'est forcément venu par Dieu. Dieu a une loi. La Bible dit, le soleil brille sur les justes et sur les injustes. La pluie tombe sur les justes et les injustes. Hébreux, chapitre 6, et il y est dit que la pluie tombe souvent sur la terre pour l'abreuver, la préparer, pour ce qui est cultivé, vous savez, pour donner la vie. Mais les épines et les chardons vivent de la même eau, du même soleil. En effet, c'est une loi de Dieu pour faire mûrir chaque semence, pour ramener chaque semence à se produire. Donc, ça devait forcément produire la semence du serpent. Et ça n'a jamais, jamais arrêté Dieu. Ça a accompli son plan tout entier. Ça a fait de lui un rédempteur. N'importe quel aveugle pourrait presque voir ça, à moins que ce soit caché. Le Dieu du monde vous l'a caché. C'est tout aussi clair que tout ce que vous pouvez voir. Voilà, là voilà votre semence du serpent. Maintenant, remarquez, mais Jésus était le commencement de la création de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la femme fait? Alors que le germe vient du sexe masculin. Essayez donc de nier ça. La femme n'a pas de vie en elle du tout. Elle a seulement un ovule, c'est-à-dire un champ, là. Comme si vous preniez un champ et que vous le labouriez complètement et que vous pulvérisiez quelque chose dessus pour en enlever tous les germes. Et que pas même de l'herbe ni rien ne puisse y pousser. Et qu'ensuite, vous le refertilisez, que vous y semiez de la bonne semence. Et si l'ennemi vient et qu'il sème une autre semence, la même loi de Dieu fera mûrir les deux semences. Eh bien, ce n'est pas parce que Dieu le voulait ainsi, vous voyez. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez, le sperme du mâle porte l'hémoglobine, c'est-à-dire le sang. Dans le sang, il y a la vie. Et si jamais vous... Je l'ai observé dans l'hybridation du bétail, et ce genre de choses-là, frère Chakarian et moi, on a vu tout ça, et les docteurs, et tout. On a observé comment ça se déroule, les chimistes. Vous voyez? Là, il y a le sperme de la femelle, et c'est un tas d'ovules. Là, il y a le sperme du mâle, et c'est un tas de germes. Ça, là, il n'y a absolument pas de germes dedans. C'est seulement un produit dérivé de l'homme. C'est comme ça qu'elle est venue ici au départ. Et elle est seulement un champ. Là, il y a un ovule. Il a le terrain fertile pour recevoir cette vie. Et cette vie se fraye un chemin à l'intérieur, elle s'y glisse. Voilà un mystère comment... Peut-être vous direz, eh bien, c'est ton premier qui le rencontre, les autres meurent. Bon, comment? Qui est-ce qui en décide? Eh bien, le premier. Est-ce que ça va être celui qui est devant? Le premier ovule qui est devant et le premier germe? Non, non. Ça peut être un ovule, tout au fond, en plein milieu du sperme. Un germe sortira à sa rencontre. Ça montre qu'il y a une intelligence qui décide si ça va être un rouquin ou un noireau, si ça va être un petit ou un gros, masculin ou féminin. Voyez? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez rien y faire d'autre. Ça ne marchera pas. Vous pouvez les mélanger et tout. Ça ne changera rien du tout. C'est Dieu qui en décide. Et après un moment, un petit germe va se glisser à l'intérieur de ce champ, de cet ovule. Il a comme une petite queue sur lui qui se tortille. Elle se détache. Et voilà l'épine dorsale du bébé qui commence à se former. Qu'est-ce qu'elle est alors? Elle n'a pas de semence. Elle a un champ pour recevoir la semence. Alors, vous voyez, l'ennemi est sorti. Alors que le bon semeur était sorti, semer une bonne semence. Et l'ennemi est venu derrière lui, semer une semence corrompue. Mais la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Le soleil, tout ça doit pousser. Jésus a dit, laissez-les pousser ensemble. Ce jour-là, elle sera liée, livrée. Et maintenant, ils sont en train de se lier dans des grandes organisations, en train de former une gerbe immense, le Conseil mondial des églises. Et quelle était la fin? Ça doit être brûlé, mais le grain sera emporté dans le grenier. Voyez? Alors qu'ils vivent tous les deux de la même chose, la même eau, la même pluie. Un arbre qui porte des agrumes, qui est un oranger, produira forcément, produira dessus, si c'est ce qui y est greffé, une grenade. Il produira un citron. Il produira un pamplemousse. Voyez? Seulement, ce ne sera pas une orange, bien qu'ils vivent de la même vie qui est produite par cet oranger. Des dénominations ont été injectées dans le cèpe. Étant donné qu'ils se disent chrétiens, ils tirent leur vie de lui. Caïphe était, vous savez ce qu'il était, et pourtant, il a même prophétisé. Voyez? Vous voyez? Ils tirent leur vie de là. Oh, j'aimerais qu'on ait une semaine où on puisse juste étudier ça à fond et le rendre clair au point que vous ne puissiez pas manquer de le voir. Maintenant, je vais laisser certaines de ces choses de côté. Maintenant, regardez bien. Regardez, ses mains ont conçu ça pour son épouse bien-aimée, conçu avec un tendre amour pour son épouse. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et Jésus était une partie de la terre. Pourquoi? Le germe de Dieu, la vie de Dieu, a été conçu dans le sein d'une femme, pas vrai? Qui était la terre. Très bien. Et alors la vie de Dieu est entrée. Donc, il était le commencement de la création de Dieu. Voyez? Et alors, ce sang de Dieu qui était là par ce germe, quand il a été versé au calvaire, il est retombé sur la terre. Pourquoi faire? Pour racheter la terre. Maintenant, elle a été justifiée, elle a été sanctifiée, appelée et revendiquée, et maintenant elle doit recevoir son baptême de feu et être purifiée pour Jésus et son épouse. Et vous êtes ces autres parties qui sont tirées de la terre. La terre, vous êtes une partie de la terre. Votre corps, votre âme est une partie de Dieu, un attribut de Dieu, manifesté ici sur terre dans un corps. Le corps doit encore être racheté. Maintenant, l'âme est rachetée parce qu'elle était dans le péché. Donc Dieu est descendu par un processus de justification, de sanctification, de baptême du Saint-Esprit et a racheté votre âme. Et vous, comme vous êtes une partie de la terre, elle est rachetée par là. Vous êtes dans le processus maintenant. Ça continue à pousser. Votre corps a été justifié sous le baptême de Noé. Amen. Et votre chair, quand il est tombé là, et la terre doit être purifiée par le feu, l'endroit où vous allez vivre, avec le baptême du Saint-Esprit, un lieu d'habitation pour Christ et son épouse, la nouvelle Jérusalem. Observez cette ville, la terre, c'est sur la terre qu'elle établira sa demeure. Maintenant, vous pouvez voir clairement, comme je l'ai dit, ce changement. La terre doit être changée. Elle ne peut pas la voir telle qu'elle. L'Église ne pourrait pas, ou le monde ne pourrait pas continuer comme ça, après le millénium, sans être changé. Voyez? Pour qu'il y ait un lieu comme celui-là dessus, il va devoir être changé. De même, nous devons être changés par son saint feu, pour être préparés et devenir un endroit où lui puisse être contenu à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Remarquez maintenant, il y aura beaucoup de place sur la nouvelle terre. Oui, vous voyez, beaucoup de place. Elle aura été rénovée, c'est vrai, par le feu, mais il n'y aura plus de mer. Remarquez, la ville forme un carré de 1500 milles de côté. Maintenant, écoutez attentivement pendant que nous dessinons ces dimensions. Il faut que j'efface le tableau. Un instant. Ici, il y a une profonde révélation de Dieu. Je vais m'arrêter. Aucun de ces autres, je parlerai du reste si le Seigneur le veut. Remarquez maintenant, la terre est... Eh bien, si vous prenez le livre de l'Apocalypse, vous pouvez voir comment il l'a mesuré, en coudées et en stades. 2300. Donc là, on voit que la ville forme un carré de 1500 milles de côté. Vous savez jusqu'où ça irait? J'ai mesuré ça cette semaine. Ça irait du Maine jusqu'en Floride et de la côte maritime est jusque 600 milles plus loin à l'ouest du Mississippi. Autrement dit, la moitié des États-Unis juste pour la ville. Vous dites, il n'y a pas de place. Une fois la mer partie, il y en aura, puisqu'elle est à peu près aux 4/5 recouverte d'eau. Pas vrai? L'explosion asséchera la mer. La terre fera éruption. Oh là là! Rappelez-vous, un carré de 1500 milles de côté. Quelle ville! Eh, mais rappelez-vous, la mer sera partie. Et la largeur et la hauteur sont égales. Ce qui fait 1500 milles par ici, 1500 milles par là, 1500 milles, la longueur par la largeur par la hauteur. 1500 milles. Pensez-y, d'or transparent. Et la ville était entourée d'un mur. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'elles sont égales, il est dit, et les murailles et le fondement étaient égaux. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un cube ou un carré. Il y a une autre mesure géographique dont les dimensions sont les mêmes. C'est une pyramide. Carré avait la forme d'un carré et les murailles étaient égales. Je vais le dessiner. Vous voyez, la longueur, la largeur, la hauteur. On va arriver à quelque chose aussi sûr que 2 et 2 font 4. Voyez? Remarquez, les dimensions de cet angle-ci sont exactement les mêmes, toutes. La longueur par la largeur par la hauteur. Il y a une autre mesure, la pyramide, qui démontre ça. Ceci, puisque c'est comme ça, ça correspondrait exactement au signe d'Enoch en Égypte, la pyramide, n'est-ce pas? Enoch, avant la destruction antédiluvienne, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans cette pyramide, il y a 7 marches qui mènent à la chambre du roi. Remarquez bien, sur la 7e marche, si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, ce qui s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduire auprès du roi. Remarquez bien à qui appartient le poste qui se trouve là, et vous verrez dans quel jour vous vivez, dans la pyramide. Maintenant, Dieu a fait 3 Bibles. Maintenant, il y a un enseignement sur la pyramide qui n'a aucun sens, mais il existe une pyramide authentique. Voyez, remarquez. Maintenant, Dieu, la première Bible, il en a fait 3. Il faut que tout soit en 3. Jésus vient 3 fois. Il est venu une fois pour racheter son épouse, la fois d'après pour prendre son épouse, la fois d'après avec son épouse. Voyez? Maintenant, remarquez comme c'est beau. Voyez? Et dans cette pyramide, il y avait 7 marches, et après, la chambre du roi. Et nous sommes dans le 7e âge de l'Église, avant que le roi s'installe sur son trône. Et rappelez-vous, la pyramide n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. La première Bible de Dieu était dans le ciel, le zodiaque. Il commence et il parcourt tous les âges. En premier, au début du zodiaque, il y a une vierge. Voilà comment il est venu, en premier. Le dernier signe du zodiaque, c'est le signe du lion, la seconde venue. Juste avant, il y a les poissons croisés, ce qui est l'âge du cancer, dans lequel nous vivons maintenant. Il y avait une pyramide après ça, Enoch, qui témoignait exactement. On n'aurait pas le temps d'examiner ça. Mais un jour, avec l'aide de Dieu, je vous montrerai. Ça dessine exactement la dimension de l'heure dans laquelle nous vivons. Voyez? Remarquez, mais cette mesure géographique qu'on a là, qui a les mêmes dimensions, ça ne veut pas forcément dire que ça doit être un cube. Remarquez, ceci correspondrait au signe de l'Égypte ou à celui d'Enoch en Égypte. Pendant le temps de purification de la terre, par son baptême de feu, il y aura du volcanisme, comme la terre qui va exploser, ce qui fera sortir une montagne en forme de pyramide. Voyez? Largement la place pour le faire. ce sera transformé au complet. La surface tout entière sera changée. Vous saisissez? Elle fera sortir une montagne en forme de pyramide. Ce serait tout à fait conforme à la parole, si c'était le cas. Et ça le sera. Maintenant, remarquez en effet, dans Ésaïe 65, 25, où nous venons de lire, il a dit, « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Oh, toute ma montagne sainte. Souvenez-vous, c'est toujours une montagne. Si les murs étaient tout droits, verticaux, on pourrait seulement voir la ville de l'extérieur ou de l'intérieur. On ne pourrait voir le trône que de l'intérieur. Mais remarquez, on ne le verrait que de l'intérieur. Mais maintenant, nous voyons la promesse d'Ésaïe 4, 5. On va le lire. Êtes-vous pressé? Non, ne soyez pas pressé maintenant. On en est à quelque chose de particulier maintenant, dans un temps trop important, qu'il faut que vous compreniez ici. C'est que je veux rendre ça clair. Et ensuite, quand on y reviendra, je vais vous montrer alors de quoi on parle, ce que c'est dans la prochaine étude qu'on fera là-dessus, une autre fois. Oh, gloire au Seigneur Jésus! Regardez bien ici comment les paroles ne peuvent pas faillir. Maintenant, regardez bien ici dans Ésaïe. Je l'ai en note ici, si j'arrive à le retrouver, un instant. Ésaïe 4, 5. Maintenant, écoutez, il parle de la venue du Seigneur. Comment les femmes seraient tellement immorales? Oh, il a dit, sept femmes. Écoutez, on va le lire. Regardez, là. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. C'est le temps de la fin, là où nous vivons maintenant, le mariage, le divorce et la prostitution, et quoi encore? En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Les réchappés d'Israël, comment vous avez échappé à toute la damnation, voyez? Et les restes de Sion et les restes de Jérusalem seront, voyons voir, de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Vous voyez? En quoi le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de Sion. Souvenez-vous, c'est toujours l'épouse, vous voyez? Et purifié Jérusalem du sang. Ça, c'est le reste des Juifs, plus l'épouse, vous voyez? Et au milieu d'elle, avec le souffle du jugement, de feu, c'est toujours ça qui est le jugement de Dieu. Au moment où il rend son jugement final, il vous appelle, il vous justifie, il vous amène à la rédemption. Ensuite, son jugement s'abat sur vous, et le Saint-Esprit et le feu vous purifient du péché. Alors vous êtes à lui. Il fait la même chose avec la terre, quand il l'épure par le feu et par l'Esprit qui consume. Maintenant, regardez, écoutez, êtes-vous prêts? L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur son lieu d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Le Seigneur, ce jour-là, au sommet, établira un feu de lumière qui brûlera au long du jour. Et plus loin, il est dit, ce sera un abri, un asile, un refuge. Remarquez, ça correspond exactement à ce dont parle la Bible. Exactement. Si les murs étaient tout droits, verticaux, on ne pourrait pas la voir. Il faut que ce soit en pente. Toute ma montagne sainte, il établira cette lumière sur cette montagne et elle sera mise à couvert. Oh, on chante ce cantique. Oh, cette ville sur la montagne de Sion. Pèlerin, pourtant je l'aime. Maintenant et à travers ces âges, quand j'atteindrai cette ville sur la colline. Voyez? Remarquez, c'est sur le sommet du mont Sinaï que Dieu est descendu. Quand il a parlé à Israël dans une colonne de feu, il est descendu sur le sommet d'une montagne, le mont Sinaï, sur la montagne de la Transfiguration, quand il a déclaré, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Il est descendu dans une colonne de lumière et dans une clarté éclatante, sur le sommet de la montagne, devant Pierre, Jacques et Jean. Et là, il était représenté avec Moïse et Élie, les deux, celui qui avait été enlevé et celui qui était ressuscité après sa mort. Gloire! La nouvelle ville et la nouvelle terre, la nouvelle création, la ville sur la colline, avec le trône au sommet, le trône ici, en haut, au sommet, et les habitants répartis sur les flancs, sur cette montagne. Et la muraille qui entoure ça, elle avait 12 fondements, et chacun d'eux avait la pierre du pectoral qui était en Aaron, ce qui représentait les 12 tribus d'Israël. Et dans les portes, ils avaient 4 portes placées exactement comme le temple dans le désert, comme la tente qui était dans le désert. Remarquez, chacune avait les apôtres, 3 de chaque côté, 12 apôtres. Chaque, elle avait 144 coudées de haut. 144 coudées, c'est exactement 216 pieds. Ce qui fait que chacune de ces grandes pierres avait près de 20 pieds de haut. Le pectoral dans cette porte qui constituait cette muraille qui entourait la ville. Maintenant, elle, la ville, ne repose pas sur le sommet de la muraille, parce qu'une ville de 1500 000 ne pourrait pas faire ça. C'est par la muraille ici que vous entrez, comme les portes de l'ancienne Jérusalem. On entrait à l'intérieur en traversant la muraille. Et chacun d'eux, il y avait les 12 fondements, et chacun avait l'émeraude et les différentes pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et les apôtres, chacun, au-dessus de cette grande porte d'une seule perle massive, il y avait le nom d'un apôtre. Et Jésus n'a-t-il pas dit, « Vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël ?» Qui était assis à la porte pour juger que ton entrée dans la ville ? Oh là là ! Voilà ! Les rois de la terre qui entreront dans la ville se présenteront devant le juge apostolique, comme Jésus l'a promis. Oh là là ! Sur ce trône, au sommet, à 1500 000 de haut, le monde entier verra la lumière du monde. Jésus, assis sur le trône, au sommet du monde, au sommet de l'Église, au sommet de la montagne de Sion, qui a 1500 000, la moitié de la taille des États-Unis, et qui s'élève tellement haut qu'on peut le voir du monde entier, à 1500 000 de haut. Et là, tout le long des flancs, il y aura les rachetés. Il y aura les maisons d'or pur, il y aura des avenues et des parcs et des jardins, et le fleuve de la vie qui sort, qui coule du trône et qui ruisselle à travers ses gorges, et oh, sur ses terrasses. Et l'arbre de vie fleurira dans chaque cour, et il portera ses fruits 12 fois par an, un nouveau fruit chaque mois. Et les rois de la terre y entreront pour apporter leur honneur. Et les feuilles servent à la guérison des nations. Quand les rois vivront dans la paix là-bas, quand ils sortiront, ils cueilleront un arbre, une feuille comme ça, comme la colombe qui était revenue quand la colère de Dieu était apaisée et qui avait apporté la feuille de houx dans l'arche. Alors, quand le roi s'en ira, en ayant apporté sa gloire dans la chambre de l'épouse, ici dans la ville, il tendra une feuille au roi voisin et nous sommes en paix pour toujours. Amen. La guérison des nations, tout est réglé. Autrefois, nous avons combattu pour le sang les uns des autres, frères. Et nous avons aimé et crié et fusillé et brûlé des enfants, tout. Mais maintenant, il y a la paix, la guérison. Pas la guérison des maladies, c'est complètement terminé. La guérison des nations. Amen. La ville avec le trône au sommet. Apocalypse 21, 23. « Et n'ont pas besoin de lumière, car l'agneau et le Seigneur Dieu en est la lumière. » Voyez, le Seigneur Dieu est cette colonne de feu qui a suivi les enfants d'Israël à travers le désert. Et il est monté sur le trône, dans ce royaume parfait, quand le temps, le royaume que Jésus va remettre au Père, afin que Dieu soit tout et en tous. Jésus est assis sur son trône ici, comme notre Joseph. Et le roi est cette lumière qui sera au sommet de la montagne de Sion. Et sa lumière sainte envahira la ville tout entière. Alléluia! 1500 000 de haut et 1500 000 sur 1500, avec les paradis de Dieu construits partout dans cette ville. Des rues, des avenues. Lisez votre Apocalypse 21. Voyez si ce n'est pas vrai. Voyez, ils n'ont besoin d'aucune lumière là, car l'agneau est la lumière. Et on peut voir, assis sur le trône, à 1500 000, ça ne monte pas comme ça, à la verticale, c'est incliné, comme la pyramide. Si ça donnait la moitié de la distance, alors ce serait comme si ça montait comme ça, vous voyez, d'une ville à l'autre. Maintenant, si vous remarquez, d'un côté de la ville à l'autre, je pourrais ajouter un petit quelque chose ici, si vous le voulez bien. Avez-vous remarqué le petit groupe ici? C'est à peu près cette partie, la circonférence que ça couvre. Pensez-y, de la Géorgie, de la Californie, jusqu'à la Saskatchewan, du Kansas, jusqu'à la côte rocheuse du Maine. Voilà ceux qui sont rassemblés. C'est à peu près ce qui est représenté ici, à peu près un carré de 1500 000 de côté. Oh, ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent de lointains pays, à la fête du roi, manger. Quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement? De pain, de parole, manger à sa table, que ces pèlerins sont bénis. Dans le monde, je dois dire, je n'ai jamais vu des gens comme eux. Oh, contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Oh, Jésus reviendra bientôt, alors nos peines finies. Si notre Seigneur venait maintenant, ce ne sera pas long. Tout est là, parfait, géographiquement, Sodome, les messagers, tout se trouve exactement en place. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Pensez-y un peu. On vient à ce petit tabernacle de 1500 000 sur 1500, les mêmes dimensions. Comment se fait-il que Dieu ait tellement pensé et se soit tellement occupé de ce petit endroit, la Palestine, vous voyez, alors qu'elle est juste un tout petit territoire? Mais c'est en plein là que se trouve le temple. C'est là que la nouvelle Jérusalem s'élèvera, exactement là. Olivier, le mont des Oliviers se fondra en deux. Il se séparera vers la droite et vers la gauche. Certainement, quand elle poussera vers le haut, depuis dessous. Pas, ils disent que ça s'ouvrira sous l'effet d'une pression comme ça. Ça pousse vers le haut. En ce jour-là, quand il posera ses pieds saints sur la montagne. Remarquez, sur son trône, à 1500 000 de haut. Souvenez-vous, Satan a essayé de le tenter une fois au sommet d'une montagne. Voyez, la nouvelle ville, elle a 12 fondements, comme on vient de le voir. 12 patriarches, 144 coudées, c'est le pectoral d'Aaron. 12 portes de perles, 12 noms de disciples. Jésus est debout, la pierre de fête, sur le trône. Quand ses saints l'ont couronné, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il est la pierre de fête. Je n'ai pas mon portefeuille sur moi. Mais si vous remarquez dans votre portefeuille, si vous avez un billet d'un dollar, il y a le sceau des États-Unis dessus, un aigle d'un côté qui tient des lances, c'est-à-dire les armoiries. Et de l'autre côté, il y a la pyramide avec l'œil qui voit tout au sommet. Vous voyez, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et là, c'est écrit en latin. Et vous verrez qu'il est dit, c'est le grand sceau. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Caïphe non plus ne savait pas qu'il était en train de prophétiser. Voilà le grand sceau. C'est ici, vous voyez, la ville. Ce n'est pas un cube plat comme ça, vous voyez. Mais elle monte en pente pour qu'on puisse la voir. Et sur cette sainte montagne du Seigneur, le Seigneur descendra sur le sommet de sa montagne. Il est ici. Voilà pourquoi la pierre de fête n'avait pas été mise là par Enoch. Voyez, voilà pourquoi la pierre de fête doit venir maintenant. Et la montagne sera poussée vers le haut, et ce sera la montagne du Seigneur. Et c'est ici, à l'intérieur, que les rachetés demeureront. Ça, là, les avenues et les grandes autoroutes, pour ainsi dire, départent et le fleuve de la vie passera, coulera à travers. Et chaque maison sera faite en or transparent. Et les rues seront faites en or. Et les arbres de vie seront là. Et ils porteront 12 sortes de fruits. Et les rois et les hommes honorables de la terre apporteront leur honneur et leur gloire dans les portes. Et les portes ne seront pas fermées la nuit, parce que là, il n'y a pas de nuit. Dans cette ville où l'agneau est la lumière, dans cette ville où il n'y a point de ténèbres, j'ai une maison qui m'attend là-haut en dehors du temps, dans cette ville où l'agneau est la lumière. Ne voyez-vous pas que les villages, les villes, les maisons, les habitations, elles témoignent de ça maintenant? Toutes ces choses naturelles sont une ombre. Prenez une ombre à distance comme ma main. Avant qu'il puisse y avoir un positif ou un négatif, il doit y avoir un positif. Et vous voyez, cette ombre, on dirait que j'ai une douzaine de doigts. Mais là, quand on rapproche ça, elle se concentre en une seule. Et alors, l'ombre se fond dans la main. Et ça, c'est souvent, des gens pensent qu'il y a deux ou trois dieux. Vous regardez trop loin en arrière, aux réformes du début. Voyez? Continuez à avancer maintenant et trouvez, continuez la mise au point jusqu'à ce qu'il y en ait un seul. Exactement. Il y a une seule épouse, pas une douzaine, des dénominations, mais une seule épouse. Ce sont les élus, pris de la terre, qui ont été prédestinés à ceci, ceux qui peuvent reconnaître leur place dans le royaume. Sur ce trône, regardez, tellement haut, la nouvelle ville, avec les fondements, 12 portes, Jésus, la pierre de fête, les apôtres qui jugent les 12 tribus. La pyramide d'Enoch ne projette d'ombre à aucun moment du jour. Je suis allé en Égypte aux pyramides. C'est fixé géographiquement et par les dimensions de cette figure géométrique pour que, peu importe la position du soleil, il n'y ait jamais d'ombre portée autour de la pyramide. Vous voyez comment c'est? Et il n'y aura jamais de nuit là-bas. Vous voyez, lui, au sommet de la montagne, il l'envahit de sa gloire. Sa lumière de gloire sera là tout le temps. Là-bas, il n'y aura pas de nuit. Jésus, la pierre de fête. Maintenant, remarquez. Donc, les rachetés marcheront dans la lumière. Maintenant, nous chantons. Oui, nous marcherons dans la lumière. Il y a quelque chose en nous qui appelle et passer de la mort à la vie. C'est parce que ça nous attend. Voyez, c'est ça qui est l'attribut, ce que nous ressentons. En fait, c'est ici. Êtes-vous prêt? C'est ici la ville qu'Abraham cherchait. Voyez, comme il était prophète, il savait que cette ville était quelque part. La Bible le dit. Et il a abandonné la ville où il vivait. Et il s'en est allé. Regardez où il est allé. Exactement là où elle sera. Voyez, il cherchait une ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Vous voyez, puisqu'il était prophète, Jésus est allé préparer, avec les mains divines, une ville divine, l'architecte divin, pour un peuple divinement acquis, pour un peuple prédestiné. Il est allé préparer. Abraham la cherchait, et il reconnut qu'il était un pèlerin et un étranger, car il cherchait une ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Ce prophète qui savait qu'elle était quelque part. Jean l'a vu descendre, mais Abraham pensait qu'elle devait déjà être sur terre. Pourquoi? Il avait rencontré Melchisédek, qui en était le roi, et lui avait donné une dîme, qui n'avait ni père, ni mère. Il n'avait ni commencement de vie, ni fin de vie. Abraham l'a rencontré. Ils ont pris la communion à l'endroit précis où la ville s'élèvera, la montagne sainte du Seigneur, où les rachetés vont vivre. Oh là là, le temps n'arrête pas d'avancer. Non, on est dans le temps. Après un moment, on s'en ira dans l'éternité. Oh, montagne sainte, il y aura des rues d'or transparent, des avenues et des maisons et des parcs. Si vous voulez lire ça, Apocalypse 21:18, l'arbre de vie sera là, des fruits de 12 sortes différentes, une chaque mois, seront produits dessus. Les gens qui mangeront ces fruits, ils changeront de régime tous les mois. Et c'est de réserver aux vainqueurs. Savez-vous ça? Ce n'est pas pour les dénominations. Vous direz, vous pensez vraiment, frère Branham? Prenons Apocalypse 2 un instant pour le voir. Apocalypse 2, 7. Là, on va voir si c'est vraiment la vérité ou pas. Apocalypse 2, 7. Voici ce qu'on y lit. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit... Maintenant, souvenez-vous, là, il ne parle pas aux Juifs. Ça, c'est l'Église, ceux des nations. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Seulement les vainqueurs, ceux qui auront vaincu la bête, vaincu sa marque, c'est-à-dire le catholicisme, le protestantisme, le système des dénominations, qui auront vaincu la bête, sa marque, la lettre de son nom, il aura droit à l'arbre de vie, à entrer par les portes, où rien de souillé ne pourra jamais entrer. Voyez, pensez-y, maintenant, un instant, là, comme on continue juste un petit peu plus loin. L'arbre de vie sera réservé aux vainqueurs. Les feuilles seront pour la guérison des nations. C'est-à-dire que les rois qui vivront là y apporteront leur honneur, quand ils apporteront leur honneur et qu'ils le déposeront devant le trône de Dieu. Tout comme ceux de l'extérieur, les 10, les 11 tribus apportaient chacune d'elles un dixième à Lévi, vous voyez? Quand ils apporteront leur honneur dans du pays béni, là, ils tendront la main vers l'arbre de vie, et ils en cueilleront une feuille de houx ou une feuille de l'arbre de vie, et ils sortiront ensemble. Il n'y a plus de guerre. Tout est en paix. Les feuilles sont un mémorial pour la guérison de la nation. Le même arbre, pas comme Adam, il y avait un arbre de la vie dans le jardin d'Éden, dont il aurait pu manger s'il n'était pas tombé. Cet arbre de vie lui rappelait tout le temps que sa jeunesse durait continuellement. Voyez, la même chose pour les nations. Les feuilles seront pour la guérison des nations. Remarquez, pas la maladie, là. Vous auriez les mêmes droits qu'Adam avait, comme la feuille colombe avec la feuille de houx, c'est tout. Chaque roi prend une feuille. Remarquez, le fleuve de la vie, il sera peut-être formé de plusieurs ruisseaux. Maintenant, dans cette terre, je vais terminer dans quelques minutes, là, sur cette terre où je vais m'arrêter. Il me reste encore ça de notes, là, une trentaine de pages. Oui, regardez. Dans cette vie, je n'ai jamais rien vu d'aussi désaltérant que d'être dans les montagnes et de trouver, comme je l'ai prêché l'autre soir, cette source qui bouillonne, sa force vivifiante. Vous êtes fatigué et vous avez soif. Vous vous laissez tomber près d'une bonne source, très profond, là où les germes ne peuvent pas aller, très profond, à des centaines de pieds sous terre, de l'eau pure, authentique, vivifiante, jaillit. On apprécie ça, c'est peu. Maintenant, la terre a ses nombreux ruisseaux d'eau rafraîchissante. Quand vous êtes assoiffé et mourant, et que vous buvez de cette bonne eau fraîche, ça vous aide à vivre. Mais regardez, d'où vient celle-ci? Du trône. Voilà d'où elle tire ses forces vivifiantes. Elle vient de sous le trône de Dieu, là où Dieu est assis. Tout, toute cette terre-ci où nous vivons maintenant, chacun, qu'il soit chrétien ou païen, a des temples. Avez-vous déjà pensé à ça? Des églises, tous. Mais celle-ci n'en a pas. La Bible dit, et là, il n'y avait pas de temple. Mais le Seigneur Dieu et l'agneau en est le temple. L'agneau est la lumière. L'agneau est le temple. L'agneau est le trône. L'agneau est la vie. C'est lui qui est ce temple. Vous voyez, tous ces temples ont un objet qu'ils adorent. Mais dans cette ville, c'est lui l'objet. Il est avec son peuple. La lumière de son esprit inonde la ville pyramide. Comme Pierre et Jean au sommet de la montagne. La lumière recouvrait le sommet de la montagne et une voix a parlé. Elle a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Dans Apocalypse 21, 3 et 4, le tabernacle de Dieu est avec l'homme. Dieu a établi sa demeure dans l'homme en le rachetant par ces trois processus. Maintenant, Dieu va racheter la terre et établir sa demeure sur la terre, avec ses sujets de la terre, qu'il a tirés de la terre. Et par le péché, elle était tombée, mais il a dû laisser continuer ça. Mais maintenant, il a envoyé Jésus pour racheter cette terre qui était déchue, dont nous faisons partie. Là, pas un seul cheveu de votre tête ne périra. Jésus l'a dit. Il a dit, « Je le ressusciterai au dernier jour. » Voyez, pourquoi? Vous êtes une partie de la terre. Vous avez remarqué, j'ai fait cette petite blague avec ma femme qui me disait que j'avais perdu mes cheveux. Je lui ai dit que je n'en avais pas perdu un seul. Elle m'a dit, « Ils sont où ?» Je lui ai dit, « Là où ils étaient avant que je les aie. » Là où ils étaient, une substance. Peu importe où ils sont, ils m'attendent. Voyez, c'est vrai, je vais les reprendre un jour. Ce vieux corps qui se ride et qui dégénère, et aux épaules qui s'affaissent, et aux genoux qui font mal, et à la gorge enrouée, ça ne fait rien. Vous pouvez l'ensevelir dans la mer, mais la trompette me réveillera. Oui, monsieur, oui, oui, monsieur. On sera changé un de ces jours. Je fais partie de ce monde qui est racheté. Vous êtes dans le monde, mais rien du cosmos. Vous êtes dans un ordre qui est différent, un ordre racheté. Remarquez, le tabernacle de Dieu sera avec les hommes. Remarquez, les choses anciennes sont passées. Cette chose, elle est passée. Ça veut dire que le ciel est descendu pour résider avec les hommes. Voyez ? Le ciel et la terre se sont unis, exactement comme quand la colombe est venue sur une partie de la terre qui était Jésus. Il était la poussière de la terre, un homme, Dieu qui est venu de ce petit germe de vie par une puissance créatrice. Et le sang qui était dans, la vie qui était dans ce sang est remontée vers Dieu. Mais le sang a coulé sur la terre pour la revendiquer. À cause du sang qui avait été transmis par la cellule reproductrice qui venait de Caïn, vous voyez, maintenant, il revient avec la puissance créatrice, tout comme il l'a fait pour Adam, en créant Adam. Voici le second Adam. Et à travers cette cellule brisée, là, où le péché, Caïn avait brisé cette cellule de sang, là, sur le juste, vous voyez. Maintenant, cette cellule de sang, si. En effet, il avait tué Abel, mais Abel était né par le sexe. Mais celui-ci n'est pas né par le sexe. C'était la création de Dieu, son commencement. Et ça a racheté la terre. Et tout le calcium, la potasse, le pétrole, la lumière cosmique qui vous composent sont rachetés. Il ne sera pas fait de mal à un seul cheveu, et je le ressusciterai au dernier jour. Ensuite, quoi? Dieu descend pour résider sur terre, dont il en est une partie, son propre corps. Il l'a ressuscité pour notre justification, et nous sommes justifiés en croyant ça et en acceptant ça. Remarquez, en type, Jésus devient, dans le type, Jésus devient homme, Dieu, ou prédestiné à prendre sa place pour nous racheter, pour rendre toutes ces choses possibles. Remarquez, en dehors de ces belles murailles, de cette ville, maintenant, est-ce que vous la voyez, la ville? Vous voyez, c'est une montagne sainte. Rien ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. La ville n'est pas un cube, c'est une montagne. Et là, la largeur par l'ampleur, par la hauteur sont égales. Vous voyez? 1500 000 comme ceci, 1500 000 comme ça, 1500 000 tout autour et 1500 000 de haut. Donc, c'est simplement une grande montagne, comme la pyramide. Et la ville est sur la montagne. Gloire! Voilà, les voilà les paradis de Dieu, la lumière du monde, ce royaume parfait, par le septième jour, celui qui est éternel. Voyez? Pas le millénium, la nouvelle terre. Voyez? Pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification, mais il lui reste encore à être brûlé. Voyez? C'est que le sang a racheté les gens. Ça montre ce mémorial que c'est le prix est payé, 6000 ans. Mais ensuite, elle doit être purifiée par le feu. Tout comme vous, vous l'avez été. C'est délégué de cette ville, la délégation. Donc, que vous mouriez ou que vous viviez, qu'est-ce que ça change? Qu'ils viennent aujourd'hui ou qu'ils viennent dans 100 ans ou dans 1000 ans, tout ce que je ferai, c'est de me reposer jusqu'à ce que mon changement arrive. Donc, hommes âgés et femmes âgées, ne soyez pas découragés. Si vous êtes une représentation là-haut, dans cet attribut de Dieu, ça, c'est Dieu. Si vous l'avez, si vous êtes représenté ici, vous ne pouvez pas vous êtes dans ce qui est éternel. Et si vous êtes passé du septième jour dans le huitième, vous êtes entré dans ce qui est éternel, par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes inclus dans ceci. Maintenant, si vous vous fiez seulement à une sensation, ou au fait de sauter, ou « je fais ceci, j'observe mon septième jour, je ne mange pas de viande », et des choses comme ça, tout ça va périr de toute façon. Voyez? Mais c'est ceci qui est éternel. Voyez? C'est ceci qui est éternel. La fête après la fête des tabernacles. Voyez? La fête des tabernacles était la dernière fête, la septième fête. Maintenant, nous adorons sous la fête des tabernacles, le septième âge de l'Église. Dans le millénium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles, dans le septième jour. Mais ensuite, après le septième jour, on a une sainte convocation. Retournez à ce qui est éternel. Comment? Par celui qui est éternel, qui est venu nous racheter et qui nous a ramenés, nous a fait reconnaître que nous étions une partie de ceci. Maintenant, comment est-ce que vous savez que vous en êtes une partie? À cause de ce que la parole de l'heure, la promesse du jour, qu'est-ce que c'est? Un rétablissement, un retour au premier jour, le premier. Et il ramènera les cœurs des enfants au Père. Ramener un rétablissement de la Pentecôte authentique, pas des sensations. Et il manifestera la lumière du soir, le même Fils qui s'est montré dans la lumière du matin, comme c'était promis pour ce jour-là. Amen et Amen. Où en sommes-nous, mes amis? Où en sommes-nous? On attend seulement de sortir du chemin maintenant pour qu'Apocalypse 11 soit fait, soit annoncé aux Juifs. C'est vrai, l'enlèvement qui arrive. Regardez bien, à l'extérieur des portes des murailles, sur toute l'étendue de la nouvelle terre, les nations demeureront dans une paix éternelle. Maintenant quoi? Des rois honorés y apporteront leur gloire. Il ne peut pas y avoir de péché là. Il n'y aura plus de femmes aux cheveux coupés qui entreront dans cette ville. Ça, je peux vous le garantir. Il n'y en aura plus qui porteront des shorts, qui fumeront des cigarettes. Les fornicateurs, les prostituées ou les menteurs, les idolâtres, tout ce qu'ils pouvaient bien être, n'entreront pas dans cette ville. Non, tout ça se sera terminé. Il n'y aura plus de péché. Rien de ce qui pourrait souiller sa sainteté n'y entrera. C'est ce qu'il a dit. Tout ça a disparu pour toujours. Regardez, dans ces champs et autour de ces portes, l'ours sera doux et le loup sera apprivoisé et le lion reposera auprès de l'agneau et la bête sauvage sera conduite par un enfant. Cette créature que je suis sera changée. Avec cette mort qui fait son œuvre dans mon corps mortel, la vieillesse qui s'installe, je serai changé. Vous avez entendu le chant? L'ours sera doux, le loup sera apprivoisé. Il ne sautera plus en se dressant pour essayer de vous tuer. Il marchera avec vous le long des sentiers. Qui va en hériter? Les rachetés. Ce sera qui? Remarquez, tout ce que je peux faire, c'est de vous enseigner mes types là. Remarquez, frère Lee, qui est sorti sur la nouvelle terre avec Noé, le prophète? Ceux qui étaient entrés dans l'arche avec lui, pas vrai? Ce sont eux qui sortent pour marcher dessus, voyez? Ceux qui étaient entrés avec Noé par son message sont ceux qui sont sortis pour marcher sur la nouvelle terre après son baptême d'eau. Celui qui entre avec Jésus maintenant, comment est-ce qu'on entre en lui? Par un seul esprit, et il est la parole. Vous devenez une partie de lui. Quelle partie de lui est-ce que vous êtes? La parole qui vit en cette heure-ci, que vous reconnaissez. Vous sortirez avec lui dans le millénium. C'est là que vous sortirez. Remarquez, pas une nouvelle génération, une transplantation. Vous dites, « Oh, frère Branham, oh !» Remarquez, si Dieu a pu susciter Élie et l'enlever il y a 2500 ans pour le retransplanter de nouveau sur la terre, pour qu'il soit un prophète pour les Juifs, combien plus il peut le faire pour l'épouse? Après que Noé est sorti de l'arche, remarquez ce qui a été dit à Noé après qu'il est sorti du déluge, tout comme il en a été d'Adam auparavant. Après qu'il est sorti sur la nouvelle terre, il a été dit, multipliez et remplissez la terre après le déluge. Remarquez, il devait être fécond, remplir la terre, comme Adam au début. Maintenant, vous pouvez voir exactement ici. Maintenant, écoutez très attentivement. Adam devait multiplier et remplir la terre, pas vrai? Noé devait, après que le monde avait été détruit, devait multiplier et remplir la terre. Vous saisissez? Maintenant, ne voyez-vous pas ce qu'est la semence du serpent? Qu'est-ce qui a rempli la terre? Vous saisissez? Très bien. Vous voyez comment Satan est arrivé jusqu'à Ève maintenant. C'est pour ça que la mort a régné sur la terre depuis. Et les cieux, la terre, les bêtes, l'atmosphère sont tous maudits par Dieu à cause de ça. Voilà la malédiction, parce que Satan est arrivé là en premier. Jésus est venu pour la racheter, la ramener au Père. Pour faire ça, il en est devenu une partie, comme je viens juste de l'expliquer. Et de cette poussière même, la partie que Jésus était lui-même, qui est rachetée, à travers lui, tous les attributs de Dieu sont rachetés avec la terre. Il était la parole parlée. Nous qui sommes rachetés, nous sommes une partie de lui. Alors, si vous pouvez reconnaître, voyez, les pharisiens prétendaient l'être, mais vous voyez mon premier dessin, ils l'étaient seulement de façon intellectuelle. Ils ne pouvaient pas reconnaître la parole quand elle était manifestée en plein devant eux. Ils disaient, « Cet homme est un mauvais esprit. » Maintenant, aujourd'hui, on se fait traiter de faux prophètes. On se fait traiter de toutes les saletés qu'on peut être traité. Par des gens religieux, vous voyez, par de grands hommes pleins de talents. Vous voyez, ils ne comprennent pas, c'est tout. Voyez, son baptême d'eau n'a pas suffi à la purifier, le leur non plus. La sanctification du sang l'a ramenée, l'a revendiquée. Mais le baptême du feu l'a purifiée, comme il l'a fait pour son épouse. Comme la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais promis de susciter une nouvelle race, comme je l'ai dit, mais il a promis de racheter celles qui étaient déchues. Ceux qui étaient les prédestinés en héritent comme il l'a promis. Et il est le Dieu qui ne peut pas changer. Ça, on le sait. Rappelez-vous, Dieu a pris Élie après l'enlèvement et l'a transporté, l'a retransplanté parmi le peuple pour prendre sa place en tant que prophète parmi son peuple. Très bientôt, il va faire ça. Et il l'a gardé en vie pendant ces 2500 ans. Il doit réapparaître. Remarquez de nouveau, il a ressuscité Moïse d'entre les morts. Où est son tombeau? Est-ce que quelqu'un peut le trouver? Lisez le livre de Jude. Voyez? Satan, l'archange qui contestait avec l'archange Satan a dit, « Nosa, que le Seigneur te réprime » quand il se disputait le corps de Moïse. Et ici, Pierre, Jacques et Jean étaient là, debout, à le regarder, sur la montagne de la Transfiguration, dans le pays même où la montagne doit s'élever pour qu'on y habite. Voyez? Et il est venu pour la racheter. Vous voyez? Il y avait l'Église enlevée, alors, représentée. Il y avait ceux qui sont endormis, représentés. Où ça? Dans la ville, là-haut, au sommet de la montagne. Voyez? Là, il y avait Pierre, Jacques et Jean qui regardaient, trois comme témoins. Il y avait Élie, Moïse et Jésus comme témoins célestes. Voyez? Il y avait Moïse, celui qui était mort, qui avait été ressuscité. Il y avait Élie, celui qui avait été enlevé, qui était toujours vivant. Ils étaient tous les deux représentés sur cette montagne sainte. Et Jésus, le Rédempteur, quand Dieu, au-dessus de lui comme ça, l'a couvert de son ombre, il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Rappelez-vous, Jésus a dit, à peu près un jour avant ça, il a dit, « En vérité, je vous le dis, il y en a qui sont ici maintenant, qui ne verront pas la mort, jusqu'à ce qu'ils voient le royaume de Dieu établi en puissance. » Qu'est-ce que c'était? Les morts ressuscités et les saints enlevés ensemble à sa rencontre dans les airs, avec Dieu qui le couvrait de son ombre, et Jésus qui se tenait là dans cette ombre en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis bien à me plaire, lors du nouveau royaume. » Oh, frères, sœurs, la mort ne vous change pas. La mort vous fait seulement changer de demeure. Voyez? Rappelez-vous Samuel, Quand il était mort et qu'il avait été enterré depuis 2 ans, il était au paradis, et la magicienne d'Endor l'a fait monter, et Saül l'a reconnu, et elle aussi, et elle est tombée sur sa face. Il n'avait pas changé du tout. Il était toujours le même Samuel après avoir été mort pendant 2 ans, et il était toujours prophète. Il a dit, « Demain, tu tomberas au combat, ton fils avec toi, et avant cette heure-ci, demain soir, tu seras avec moi. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Voyez, et quand Moïse reviendra, Élie, pour Apocalypse 11, ils seront toujours prophètes. Alléluia! Et là-bas, dans le pays, la ville où l'agneau est la lumière, je vous reconnaîtrai, frère McKinney. Je vous reconnaîtrai, mon peuple, mes joyaux dans la couronne. Quand ils viendront de l'est et de l'ouest vers cette ville, quand elle sera là, 1 500 000 sur 1 500, et la ville construite en carré, quand vous serez assis là sur la montagne sainte, où Dieu est assis sur la montagne, et Jésus sur le trône, et la trompette d'or sonnera quand Joseph s'en ira pour traverser le paradis à pied, et les enfants de Dieu tomberont à genoux pour l'adorer, en sachant qu'ils ont été rachetés. Voyez ? Amen. Alléluia.
What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. I'm bound for that beautiful city.
Que le Seigneur a préparé.
Isaiah said in Isaiah 9:6 and on.
Esaïe a dit dans Esaïe 9:6, et à sa paix et à son accroissement, il n'y aura pas de fin. La domination reposera sur ses épaules. On appellera son nom Conseiller, Prince de la Paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Et la domination reposera sur ses épaules. Et à son accroissement et à sa paix, il n'y a pas de fin. Même les animaux sont là. Oh là là!
The bear will be gentle, and the wolf will be tame, and the lion shall lay down. By the lamb, and the beast from the wild will be led by a child. But I'm going to be changed.
Cette créature que je suis, elle sera changée quand ce jour arrivera, car je vais vers cette cité. Je suis destiné à cette ville magnifique. Je sens la puissance rédemptrice dans tout mon cœur maintenant. Si ce n'est pas le cas, alors j'ai gaspillé ma vie. J'ai enseigné aux autres des choses fausses. Mais quand je pose le regard et que je vois que la promesse qu'il a faite pour ce jour et que je la vois confirmée et que je regarde cette assemblée qui vient de 1 500 000 sur 1 500, assise ici, une élue qui a été appelée des dénominations et des races et des credos et tout, rassemblée, alors que je vois la parole se confirmer, je sais sans l'ombre d'un doute que les joyaux de ma couronne brilleront avec plus d'éclat que tout ce qu'il y a dans le monde. Ce jour-là, il viendra un temps. Les amis, nous ne nous rassemblons pas ici en vain. Nous attendons seulement ce temps-là. Il est très, très tard. Mais Jésus est encore très, très proche. Et sa gloire, c'est merveilleux. On appellera son nom Conseiller. Cette ville, pouvez-vous la voir? C'est là que l'épouse et l'époux s'établiront, pour ne plus jamais. Maintenant, si vous trouvez que c'est merveilleux que t'on fait des centaines de milles en voiture pour s'asseoir ici et se nourrir de sa parole, alors que ceci n'est qu'une ombre, qu'est-ce que ce sera que t'on habitera dans la ville avec lui? Quand je serai votre voisin de porte, et quand on mangera de ses arbres, et qu'on marchera dans ses rues, quand on montera ces rues d'or vers la fontaine, qu'on boira à la fontaine, qu'on entrera dans les paradis de Dieu avec des anges qui planent sur la terre en chantant des hymnes. Oh, quel jour ce sera! Ça vaut la peine. Le chemin a l'air rude, parfois ça devient dur, mais oh, ce sera tellement peu quand je le verrai. Tellement peu. Qu'est-ce que les vilains noms et les choses qu'ils ont dites, qu'est-ce que ce sera quand je le verrai dans cette magnifique, magnifique ville de Dieu? Courbons la tête.
I'm bound for that beautiful city.
My Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages sang Gloria round the white throne. Sometimes I go homesick for heaven, and its glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold on the island of Patmos. John saw it. Dear Jesus, this hope, my hope's built on nothing less.
Précieux Jésus, cette espérance, mon espérance n'est bâtie sur rien de moins, Seigneur. C'est la mère de mon cœur, cette ville, le grand roi. Ô Dieu, que pas un seul ici ne périsse, s'il te plaît. Que nous examinions nos vies de nouveau aujourd'hui, Seigneur, en attendant la venue du Seigneur. Là où tout s'est racheté, là-bas dans ce grand colisée à Rome, là où ces chrétiens ont été dévorés par des lions, la poussière se transformera un jour. Il n'y aura pas de cimetière sur la pente de la colline de la gloire. Il n'y aura pas de couronne mortuaire accrochée à la poignée d'une porte. Aucune larme ne l'attachera. Non, non. Pas de tertre de gazon. Aucune tempête ne s'abattra sur elle. Tout sera glorieux là-bas. Aide-nous, Seigneur. S'il y en a un ici qui est appelé à ce souper des noces de l'agneau, à ces 1000 ans de règne du millénium, et ensuite à entrer dans la ville une fois la lune de miel terminée. Le millénium, c'est seulement la lune de miel. Ensuite, elle, l'épouse, emmène son épouse à la maison. C'est à elle, son époux à elle, son épouse à lui. Oh, il est allé préparer une maison depuis qu'il s'est fiancé. Que nous soyons fidèles à celui qui est la parole, car il est la parole. Peu importe combien les autres essayent de nous répondre avec insolence, de nous en tenir éloignés, Seigneur, attire-moi plus près.
For sometimes I grow homesick for heaven, and its glory I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold.
La demeure future de l'époux et de l'épouse. Il revient au souper des noces. Ce sera 3 jours et demi. Ensuite, revenir de nouveau dans le millénium pour notre lune de miel. Et ensuite, il va faire apparaître la ville comme l'époux qui emmène l'épouse vers sa surprise. Comme la petite épouse se tient là, toute ébahie, en regardant sa demeure future. Et par la foi, aujourd'hui, Seigneur, nous la voyons là-bas. Ce sera ici même, sur cette terre, tu l'as promis. Ton Église va être complètement rachetée un de ces jours, et ensuite ton monde va être racheté, le reste des particules. Mais tu as d'abord racheté ton peuple, leurs corps qui sont faits du monde. Aide-nous, ô Dieu, s'il y en a un ici qui n'en est pas tout à fait certain, Seigneur, qu'il le reçoive maintenant même. Je sais que ça a été long et chaud, mais les amis, nous ne serons pas toujours ici. Je ne serai pas toujours votre pasteur. Assurons-nous bien. Est-ce qu'il y a un moyen, frère Branham? Oui. Devenez une partie de la parole, une partie de la parole d'aujourd'hui. Ça ne peut pas être une partie de la parole du jour de Moïse. Cette partie-là, elle est déjà formée. C'était les pieds. On en est à la tête maintenant. Ceci, c'est Christ. Pas à l'époque des bras, là-bas en Luther, non. Ceci, c'est l'époque de la tête. Christ, la pierre de fait, vient sur le corps. Si vous ne vous sentez pas tout à fait comme il faut à ce sujet, là où vous pouvez, voulez-vous lever la main pour que je puisse voir que tous les autres gardent la tête baissée. Que Dieu vous bénisse. Dites, pensez à moi en prière, frère Branham. Je veux tellement y être. Je ne veux pas le manquer, frère Branham. J'examine, je fais tout ce que je peux. Mais priez pour moi maintenant, voulez-vous? Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous y pensez maintenant, priez simplement. Dites, ô Dieu, c'est dans votre propre cœur. Vous voyez, si vous sentez quelque chose qui tire, qui picote dans votre cœur, alors c'est ça, c'est cet attribut qui essaye de se déclarer.
I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages will sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. Heavenly Father,
Père céleste, prends-nous maintenant, Seigneur. Que le grand berger rédempteur, le grand berger qui a quitté la gloire, en sachant que certains des attributs étaient perdus dans ces grandes vallées du péché, où les loups et les animaux auraient tout fait de dévorer ce petit agneau, mais il a quitté les corridors dorés, il est descendu sur terre, et il est devenu l'un d'entre nous pour pouvoir nous déclarer l'amour de Dieu. Là, il les a trouvés. Certains dans des dénominations, certains dans la maison malfamée, certains dans les rues aveugles, certains le long des haies et dans les chemins. Mais il a racheté chacun de ceux que le Père avait établi qu'il rachèterait. Et il nous a commissionnés pour que nous vivions cette partie de la parole pour nos âges. Et nous voyons la grande réforme de Luther dans cet âge-là, et de Wesley, et de la Pentecôte. Maintenant, nous attendons la pierre de fait de la ville. Ô Dieu, nous connaissons l'âge et la promesse qui nous est donnée pour ce jour-ci, comme ceci doit être rétabli. La lumière du soir en fera mûrir le fruit. Et il arrivera qu'il y aura un jour qui ne pourra être ni jour ni nuit, qu'on puisse appeler, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Ce même Fils de Dieu glorieux, qui se manifeste dans la chair humaine ici sur la terre, qui fait vivre la promesse exactement, aveuglé aux yeux des pharisiens et des sadducéens et des hérodiens, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça se répète de nouveau, la parole qui est manifestée exactement comme elle l'a été. La parole de connaître les secrets des cœurs, tout à fait de la même manière que c'était, comme l'Écriture le dit, elle ne peut pas être anéantie. Aide-nous, ô Dieu, à nous en rendre compte. Aide ceux qui ont levé la main maintenant, qu'ils serrent leur ceinture un peu plus fort, qu'ils se chaussent de l'Évangile de paix, qu'ils revêtent l'armure complète de Dieu, qu'ils enfoncent le casque, qu'ils prennent le bouclier de la foi, qu'ils aillent de l'avant à partir d'aujourd'hui. Accorde-le, Seigneur, juste un peu de temps, et nous serons appelés, alors l'enlèvement viendra. Juste un tout petit groupe, comme Enoch, sera enlevé. Ensuite, le reste de la semence de la femme, qui garde les commandements de Dieu, des Juifs, qui ont le témoignage de Jésus-Christ, des gentils, seront pourchassés comme des chiens, et ils donneront leur vie pour leur témoignage. Alors, un matin glorieux, à l'aube du millénium, pour que la lune de miel commencera, Et alors, les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à la fin des mille ans. Ensuite, à la fin des mille ans, il y a eu un jugement, ce qui montre que Cham était dans l'arche. Et Cham est encore là dans le reste. Ceux qui l'ont entendu et qui l'ont rejeté devront être jugés. Maintenant, accorde le Seigneur que nous ne soyons pas comptés parmi eux, mais que nous soyons dans cet appel du souper des noces. En effet, nous reconnaissons vraiment Jésus parmi nous aujourd'hui. Nous entrons avec lui, sortir du monde, pour entrer en lui. Avançons dans cette ville, sortons avec lui. Je me fais vieux, Seigneur. Il ne me reste plus beaucoup de prédications à prêcher. Mais je te fais certainement confiance. Je cherche cette ville comme mon père Abraham l'a fait. Il y a quelque chose en moi qui me dit qu'elle vient. J'essaye partout, Seigneur, de répandre la lumière et de les appeler. Qu'aucun de ceux-ci, Seigneur, comme c'était beau, il y a un moment que tu m'as révélé ça. De la circonférence d'environ 1500 000, il y en a juste un ici et là, qui sont assis ensemble aujourd'hui, qui se sont rassemblés à un petit endroit, en attendant que cette ville apparaisse. Nous professons que nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous sommes des indésirables. Les païens, le monde, ils rient et ils se moquent. Les dénominations religieuses ridiculisent. Mais nous ne nous laissons pas ébranler par de telles choses. Fais de nous une partie de la parole, Seigneur, inébranlable. Il arrivera dans les derniers jours. Que ce soit nous, Seigneur, que nous soyons comptés parmi eux. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous le croyez? Levons les mains comme ceci.
I'm bound for that beautiful city. My Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages will sing glory around the white throne. There shall be, oh, what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold.
Maintenant, si nous allons demeurer ensemble dans cette ville, serrez donc la main à quelqu'un. Dites, que Dieu vous bénisse, pèlerin. D'où est-ce que vous venez? De la Louisiane? De la Géorgie? Du Mississippi? Moi aussi, je suis un pèlerin. Je cherche cette ville. Je cherche cette ville, frère Neville. Je m'en vais loin dans... Amen. Frère Caps, je cherche cette ville encore ce soir.
What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. All the bear will be Judah, and the wolf will be tame. And the lion shall lay down by the lamb, oh yeah, and the beast will be led by a child, and I'll be changed from this creature that I am, oh. There'll be no more sorrow.
invisible king this morning will be made manifest.
Notre roi invisible ce matin sera manifesté.
I won't look upon Bill Dow at 90 years old.
Et je ne verrai plus Bill Dow, âgé de 90 ans.
You won't look upon me at 50.
Vous ne me verrez plus à 50, mais je serai changé ce jour-là.
And when the beast from the wild will be led by a child, but I'll be changed from this creature that I am.
Vous serez content, n'est-ce pas? Il n'y aura plus de cheveux gris, d'épaules tombantes. Mais la beauté immortelle sera là, à sa ressemblance, pour briller avec plus d'éclat que le soleil. Oh, merveilleux!
There will be peace in the valley for me. That's what we're here for.
C'est pour ça qu'on est ici.
How many of you need strength for
Combien d'entre vous ont besoin de force pour le voyage?
God grant it to us.
Que Dieu nous l'accorde.
How many of you sick
Combien de vous sont malades dans leur corps?
Wounded
Des soldats blessés.
Dozen or more.
Une douzaine ou plus.
You believe it's here?
Vous croyez qu'il est ici? Le roi invisible, les choses visibles, invisibles, sont manifestées par les visibles. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à part le corps matériel. Maintenant, si c'est son esprit qui a prêché ceci à travers moi, il accomplira les œuvres qu'il a accomplies quand il était ici. Oh, comme c'est merveilleux!
I am bound for the promised land.
S'avançait dans la rivière là-bas, le premier jour où l'ange du Seigneur est apparu sous forme visible, pour confirmer, comme il l'a fait au mont Sinaï, que je l'avais rencontré. Je me suis avancé dans la rivière, et des centaines chantaient ce même chant pour le baptême. Voilà qu'il est venu, descendu, cette même colonne de feu que vous avez vue sur la photo là, qui descendait, tout près d'ici, au bord de la rivière. Et il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de sa première venue, ce message sera le précurseur de la seconde venue. Voyez, voilà, vous voyez. Cette même colonne de feu est ici avec nous. Est-ce que vous en êtes conscient? Il a simplement fait certains d'entre nous pour une chose et certains pour autre chose. Si vous voulez, sans le moindre doute, croire qu'il est dans ce bâtiment, je crois qu'il se prouvera à vous. Est-ce que ça vous satisfera? Si je ne peux pas prendre tout le monde, il est presque 2 heures, mais si vous... Il est un peu plus tard qu'une heure, plutôt. Si vous croyez qu'il descende sur nous, où est notre foi? Vous voyez, vous devez croire ça. Si vous n'en doutez pas du tout, ça marchera. Je reconnais la présence divine de l'être de Christ, qui est la parole. Et la Bible a dit, la parole est efficace qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la moelle des os et discerne les pensées qui sont dans le cœur. Elle révèle le secret du cœur. Écoutez, voyons, je ne connaissais pas ces choses il y a des années. Et quand je l'ai dit, sans le savoir, regardez ce qu'il a fait. Il a dit, « Maintenant tu prendras la main des gens. » Et ne pense rien, prenons seulement l'attribut qui t'est dit. Dis que c'est une tumeur, quoi que ce soit. Ensuite il a dit, « Il arrivera que tu n'auras plus besoin de faire ça. » Voyez, voyez. Il discernera la chose même qui est en eux. On a toutes sortes d'imitations, on le sait, pour presque séduire les élus, si possible. Observez comme le reste de la chose s'accorde avec la parole, alors vous saurez si c'est juste ou non. Mais Jésus demeure toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tous ceux ici qui sont malades et qui savent que je ne vous connais pas, levez la main, dites, je sais que vous ne me connaissez pas. Oh, c'est vraiment, je pense, partout. La seule chose que vous avez à faire, c'est juste de le croire. Jésus a dit, « Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même, quand le Fils de l'homme sera révélé sur la terre au dernier jour. » Quand le Fils de l'homme sera révélé, ou qu'il se révélera au dernier jour. Maintenant, pas les premiers jours, les jours du milieu, le dernier jour, vous voyez, il révélerait. Et maintenant, nous sommes dans les derniers jours. Sodome est exactement là, tout, les messagers, exactement pareil. Qu'est-ce qui est arrivé au petit reste qui était appelé à sortir avec le groupe d'Abraham? Il y en a un qui est venu parmi eux dans la chair humaine, représenté dans la chair humaine. Il a mangé avec eux, il a bu avec eux, la même nourriture qu'il mangeait, tout. Il s'est tenu parmi eux, il a apporté le message. Alors il a dit, « Je vais accomplir cette grande chose. » Et Abraham continuait d'étudier. « Est-ce que c'est ça? J'ai cherché une ville. » Est-ce que c'est là le roi? Et il a dit, pourquoi est-ce que Sarah a douté de ceci, dans la tente derrière lui? Abraham a dit, Seigneur Dieu, Elohim, puisqu'il avait discerné les pensées de Sarah. Jésus a dit que ça se répéterait de nouveau quand il serait révélé au dernier jour. La pierre de fête qui entre dans le corps pour racheter les... Ce sont les rachetés, il vient prendre les siens. Il est ici avec nous. Il y a seulement une douzaine de mains environ, ou plus, qui se sont levées. Je crois que Dieu peut guérir chacun de vous. C'est vrai. Je crois que vous l'êtes. Je ne crois pas que quelqu'un puisse vraiment être assis dans un endroit comme celui-ci, sans, en un temps comme celui-ci, et cette atmosphère-ci, sans savoir, sans reconnaître quelque chose. Je veux que vous priez. Je veux que vous trouviez ce qui ne va pas chez vous, dans votre cœur, vous voyez, et alors que vous vous mettrez à prier en disant, « Seigneur Jésus, révèle ceci. Je te dis ce qui ne va pas chez moi. Et maintenant, envoie ton Saint-Esprit à Frère Branham pour accomplir ce qu'il a dit être la vérité dans ce message où il a parlé de toi aujourd'hui. Alors je sais que ce sera la vérité. Maintenant, révèle-le-moi, Seigneur. Parle-moi. » Maintenant, c'est éparpillé, un peu par-ci, par-là. Donc, priez simplement et croyez simplement de tout votre cœur que Dieu va l'accorder. Maintenant, je veux que vous me regardiez et que vous priez, tout comme Pierre et Jean ont dit, « Regarde-nous ». Il voulait quelque chose et il était sur le point de le recevoir.
et vous voulez quelque chose, et je crois que vous êtes sur le point de le recevoir. Il a dit, regarde-nous. Il dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donnerai. Maintenant, la guérison, je n'en ai pas. Tout cela est en Christ. Mais ce que j'ai, un don de Dieu, je te le donne, la foi pour le croire. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que chacun de vous soit guéri. Croyez-le. Voyez, si tu peux croire. Il y a une petite dame assise ici, elle me regarde. Elle pleurait il y a quelques minutes en priant. C'est d'un problème de thyroïde qu'elle souffre. Je ne vous connais pas, vous m'êtes étrangère. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'ici, vous êtes de Chicago. Madame Alexander, si c'est vrai, faites signe de la main. Maintenant, retournez à Chicago et soyez en bonne santé. Qu'est-ce qu'elle a touché? La même chose que cette femme qui avait la perte de sang a touché, le bord de son vêtement à lui, pas le mien. Il y a ici une petite dame qui est assise en plein milieu de la foule. Si je peux arriver à ce qu'elle me comprenne, vous qui avez levé la tête en la tournant de côté, je ne vous connais pas, vous m'êtes étrangère, mais vous souffrez de maux d'estomac. Votre mari est assis à côté de vous. Il a quelque chose qui ne va pas à l'oreille. Votre nom est Zah. Vous m'êtes étranger. Vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes du Michigan. Si c'est vrai, faites signe de la main. Retournez au Michigan en bonne santé. Votre foi vous guérit. Si tu peux croire, tout est possible. Il y a une petite dame là qui a des problèmes de gorge. Elle est assise de ce côté, là au bout. Elle vient de la Géorgie. Elle est habillée en blanc. Retournez en Géorgie, en bonne santé. Jésus-Christ vous guérit. Est-ce que vous le croyez? Une dame assise là qui me regarde, sur le siège au bout. Elle a des problèmes de sinus. Si elle le croit, Dieu va la guérir. Madame Brown, croyez de tout votre cœur. Jésus-Christ va. Vous m'êtes étrangère, mais lui, il vous connaît. Eh oui. Vous le croyez? Levez la main. C'est ça. Allongez ici sur cette civière. Dites-lui de regarder par ici. Elle souffre depuis longtemps. Si je pouvais la guérir, je le ferais, monsieur. Je ne peux pas guérir. Elle n'est pas d'ici, elle vient de loin. Vous venez du Missouri. Vos ennuis sont internes. Mais si vous croyez de tout votre cœur et que vous ne doutez pas, Jésus-Christ peut vous guérir et vous pourrez retourner au Missouri en bonne santé et donner votre témoignage. Vous le croyez? Alors, acceptez-le et prenez votre civière et rentrez chez vous. Jésus-Christ vous guérit. Est-ce que vous croyez? Ça, c'est l'identification de la présence du Roi éternel. Est-ce que vous le croyez maintenant de tout votre cœur? Maintenant, il a certainement fait un anneau tout autour de ce bâtiment. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Vous croyez que vous êtes dans sa présence? Maintenant, est-ce que vous croyez et acceptez que vous faites partie de la délégation de ce royaume? Levez la main. Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Nous sommes l'un l'autre. Vous êtes une partie de moi, je suis une partie de vous. Nous faisons tous partie de Christ. Maintenant, ensemble, imposons-nous les mains les uns aux autres. Ici même, la femme sur la civière s'est levée, elle se déplace, elle retourne chez elle pour être en bonne santé. Amen. Vous êtes chacun guéri si vous le croyez. Maintenant, posez vos mains les uns sur les autres et vous êtes cette partie de Christ. Priez pour la personne sur qui vous avez les mains, de la manière que vous voulez. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es ici. Tu es notre roi. Tu t'identifies parmi nous. Nous te remercions pour cette présence. Et Seigneur, tu as dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, sans en douter, en croyant que ce que vous avez dit s'accomplira, vous pouvez l'avoir, vous pouvez avoir ce que vous avez dit. Alors, en obéissance à ce commandement, en obéissance à la parole de Dieu qui ne peut pas faillir, Nous, en tant que tes délégués, venus de 1500 000 sur 1500, comme la ville, nous disons à Satan, au diable vaincu, ta fin, c'est d'être brûlé. Nous sommes la délégation de la ville qui a la forme d'un carré, la ville où l'agneau est la lumière. Nous sommes l'attribut exprimé du Dieu Tout-Puissant que Jésus-Christ a racheté par sa grâce. Satan, sors et quitte chaque malade qui est ici, au nom de Jésus-Christ. Des mains saintes qui ont été rachetées parce qu'elles croient à la parole et qu'elles sont des attributs de la pensée de Dieu. Maintenant, ces mains sont posées les uns sur les autres. Tu ne peux plus les retenir. Sors au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus, maintenant, il est ici. Sa parole dit qu'il est ici. Votre présence et votre foi témoignent de ce que vous faites partie de la délégation. Même toutes les mesures géographiques qu'on peut montrer, c'est ça. Pouvez-vous reconnaître que vous êtes des fils et des filles de Dieu rachetés? Vous reconnaissez que ceci, c'est votre demeure? C'est vers ceci que vous allez. C'est pour ça que vous venez ici. C'est pour ça que vous venez à Christ. Vous vous nourrissez de sa parole. Et si vous passez un moment comme celui-ci, ici, juste par ses attributs exprimés, qu'est-ce que ce sera quand nous entrerons dans sa présence? Oh, ce sera merveilleux! Chacun de vous a le droit de guérir les malades, d'imposer les mains aux malades. Chacun de vous a le droit de baptiser. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, le bassin est ouvert. C'est le seul moyen pour vous d'y arriver. Et oui, c'est ça, c'est d'obéir à chaque parole. Souvenez-vous, c'est une seule petite phase de la parole au commencement qui a causé tout le péché sur la terre. Jésus a dit, quiconque retranchera une parole de ceci ou y ajoutera une parole n'entrera pas. Son nom n'est plus dans le livre dès qu'il le fait. Il n'y a pas d'endroit dans la Bible où qui que ce soit ait jamais été baptisé dans l'Église autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas été baptisé de cette manière-là, vous feriez mieux de le faire. Oh, vous dites, ça ne change rien. Pour Ève, ça changeait quelque chose. Satan a dit, oh, certainement que Dieu, tu sais que Dieu, mais il l'a fait, il l'avait dit. Il a donné à Pierre les clés du royaume, et ce qui a été lié à la Pentecôte a été lié pour toujours. C'est la raison pour laquelle l'épouse est réapparue la deuxième fois. Il doit y avoir une église appelée à sortir au dernier jour, comme il y en a une au premier jour, absolument. L'arbre est monté de ses racines pour devenir l'arbre de l'épouse, comme il l'a fait à l'époque, le chef-d'œuvre de Dieu de nouveau, comme je l'ai dit il y a deux dimanches, qui doit être emmené dans cette ville. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je crois. Satan est vaincu. Il le sait. Il est sur terre. Il va comme un lion rugissant. Ça ne durera pas longtemps avant qu'il soit terminé, qu'il soit fini. Il connaît son heure. Il va comme un lion rugissant. Mais rappelez-vous, le prince de la paix est proche, le grand divin, l'architecte de mon être, l'architecte qui m'a bâti comme je suis, qui vous a bâti comme vous êtes, est ici. Si c'est l'architecte, qui sait assembler le bâtiment, le placer comme il faut? Qui sait mieux faire que l'architecte? Et il est ici pour le prouver qu'il est ici. Maintenant, ça dépend de votre foi. Croyez, croyez seulement. My Lord has prepared for His own, where all the redeemed of all ages will sing glory around my throne. Sometimes I grow homesick for heaven. Well, this is all over. And the glory I there behold, oh, joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. Remember, rappelez-vous, à l'église ce soir, ils donneront la communion. If you're here in the city, yet, si vous êtes encore ici en ville, que vous aimeriez venir, on serait heureux de vous avoir. C'est une commémoration de ce que nous allons manger un de ces jours avec lui. Je vous aime. Je ne sais pas comment l'exprimer. Je pense que vous êtes le sel de la terre. et j'entends parler de votre comportement à l'extérieur, dans le monde, alors ça me donne encore plus confiance en vous. Mais pensez, ce petit groupe sera, charmant comme nous sommes, sera dispersé un de ces jours. Nous rêverons de ceci. Mais s'il arrive que l'un de nous meure avant qu'on se rencontre de nouveau, on...
When all sorrows has drifted away, I'll be standing by the portal when the gates open wide. At the close of life's long weary day, I will meet you in the morning by the bright. Home by the river, and with rapture old acquaintance renewed. I'll see you, they know you. You will know me in the morning by the smile that I wear. I will meet you in the morning, in the city that is built for square.
Est-ce que vous aimez ça? Jusqu'à ce que nous nous rencontrions, maintenant, levons-nous. Revêt-toi du nom de Jésus. Donnez-nous l'accord. Vous l'aimez? N'est-il pas merveilleux? Croyez-vous que ceci est la vérité? Est-ce que c'est vers là que vous vous dirigez par la grâce de Dieu? Jusqu'à ce que nous arrivions là-bas, revêt-toi du nom de Jésus comme d'un puissant bouclier. Et quand les tentations surviennent, murmure ce saint nom en priant. C'est tout ce qu'il y a à faire jusqu'à ce que nous vous revoyions. Très bien. Maintenant, j'ai dû survoler mon message. Un jour, si le Seigneur le veut, j'y reviendrai et je parlerai de ces avenues. Je reprendrai ça, vous voyez, quand on aura plus de temps. Vous vous plaignez de ce qu'on ne restait pas assez longtemps. Aujourd'hui, on l'a fait. Il fait chaud, mais maintenant, que Dieu vous bénisse. J'aime chanter comme ça. Un voisin ici disait l'autre soir, quand ils ont coupé le haut-parleur extérieur, il disait, « J'ai tellement aimé le message, mais pourquoi est-ce que vous avez coupé ces jolis chants, vous voyez, à l'extérieur ?» Donc, voisin, au cas où vous seriez à l'écoute ce matin, je pense qu'on a les meilleurs voisins qu'il y ait à Jeffersonville. On garde nos autos devant leur maison et tout le reste. Ils ne disent rien à ce sujet. On continue simplement. Donc, on les remercie maintenant. Oh, comme il est merveilleux! Que Dieu vous accompagne maintenant! Courbons la tête. Pasteur va terminer la réunion juste dans quelques instants. Que Dieu vous accompagne.
We meet at Jesus' feet. That's the great city at the throne. We meet. Shall we meet?